Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant extraterrien newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour.
Salut Aurélien.
Salut.
Écoute, je suis hyper content d'être là aujourd'hui. Là, je suis venu te voir à Toulouse et je suis très enchanté de te rencontrer. Donc, merci infiniment pour ton temps. Je sais que tu as fait beaucoup de passages médias ces derniers jours. Je ne sais pas si je suis le dernier ou pas, mais tu dois en avoir d'autres. Mais je suis très honoré d'avoir un peu de ton temps et de pouvoir échanger. Donc, déjà, avant de commencer, merci. Voilà.
Ben, merci à toi. Moi, j'habite pas loin et tu es chez moi ici. Donc, tu as fait un petit voyage pour venir jusqu'ici. Donc, j'apprécie beaucoup. Je suis tes podcasts. Donc, c'est excellent ce que tu fais, donc le fait que tu voyages depuis chez toi jusqu'à ici, c'est top, donc merci à toi, c'est cool de pouvoir discuter ensemble.
Bah c'est mon sport à moi, c'est mon aventure, c'est d'aller rencontrer les gens et de pouvoir leur faire raconter leur histoire dans des contextes déjà près de chez eux, et aussi de se voir un petit peu dans les yeux, je trouve que ça apporte une petite touche supplémentaire. Merci infiniment pour ton temps, je t'ai ramené un petit cadeau, une petite casquette, on fera une petite photo tout à l'heure.
Ouais, merci, ouais, c'est gentil, je la mettrai avec grand plaisir. Ouais.
Pour les auditeurs, alors je sais qu'il y a une partie des auditeurs qui te connaissent, qui te suivent probablement sur Instagram, qu'on suit tous tes exploits.
Pas depuis longtemps, mais ouais.
Ben, on en reparlera, tu vois, je suis curieux aussi de savoir un peu l'après, quoi, l'espèce de coup d'éclat médiatique que ça peut être, comment est-ce que tu le vis, tu vois, sans rentrer non plus trop dans ta vie privée, mais humainement, tu vois, comment toi tu le prends. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, tu as terminé il y a 2 semaines, du coup, là, un peu.
C'est ça.
Une course absolument dantesque qui s'appelle la Barclay, qui est une course d'ultra trail, aussi loufoque que difficile. Comment est-ce que tu la définirais, toi, cette course, avant de commencer cet épisode?
Ouais, il faut la définir en expliquant un peu le concept, en passant un peu 30 secondes à expliquer un peu toute la démarche. C'est un ultra trail, mais à particulier, qui a plein de règles. C'est pas balisé. C'est un parcours qui est défini, qu'on doit suivre. Il n'y a pas de liberté. C'est pas une course d'orientation. On doit vraiment suivre le parcours qui est jalonné de 13 livres. Et à chaque fois, sur les livres, on doit arracher le numéro de page qui correspond à son numéro de dossard. Donc voilà, il faut expliquer un petit peu le concept. Et sinon, la course en elle-même, c'est environ 200 km, 20 000 mètres de dénivelé à faire en 60 heures. Et ça, c'est divisé en 5. C'est 5 boucles qui sont dans un sens, puis dans l'autre. Donc il y a tout ça qui fait que c'est une course atypique et on est en autosuffisance.
Vous êtes 40.
On est 40, voilà, on est très peu, donc on est souvent seul dans les bois, il n'y a pas de spectateurs, il n'y a pas d'aide, que ce soit voilà, sur les ravitaillements ou sur le support, sur la motivation. Donc on est vraiment en autosuffisance non-stop. On ne connaît pas l'heure du départ, qui est entre minuit et midi. Donc il y a plein de petits trucs comme ça qui épicent la course et qui font que c'est un événement unique et que tous les ans, il y a peu de personnes qui peuvent la finir.
Et cette année, vous êtes 3 ? C'est un grand cru, parce que
ouais,
c'est
ouais.
Très rare.
C'est une année exceptionnelle, c'est la deuxième année après 2012 où il y a 3 finishers.
Ouais. Ouais, parce que sinon, il arrive même très souvent que personne ne termine. Je crois que c'est depuis 2019 que personne n'avait terminé.
2017. Ça fait 6 ans qu'on attendait justement un nouveau finisher. Donc ça fait 6 ans que, bon, avec le Covid, une année a été annulée, l'année 2020 je crois. Mais sinon après, voilà, le défi est énorme, la météo n'était pas favorable sur certaines éditions, donc des fois c'est juste impossible de finir s'il fait que pleuvoir ou s'il y a plein de brouillard. Et aussi le défi qui est compliqué, donc des fois il y a personne qui finit, et là ça faisait 6 ans que qu'il y avait personne qui avait fini. Ouais.
Bah, cette période de l'année, ouais, tu peux te dire que la météo est pas forcément la plus clémente et la plus accueillante. Ça se situe où peut-être géographiquement pour les, je sais pas si on l'a précisé dans ta description. Donc
je l'ai pas dit, ouais, c'est dans le Tennessee aux États-Unis. Donc le Tennessee c'est un peu au centre est des États-Unis, donc il y a pas vraiment de haute montagne. C'est le parc de Frozen Head State Park, c'est de la basse montagne. Le pic culminant, il est à 1000 mètres. Donc, ça représente un peu comme le piémont pyrénéen où c'est vraiment très forestier. Mais par contre, dans le hors-sentier, ça monte droit quoi, et ça s'arrête pas.
Bah, tu m'étonnes, 200 km, 20 000 mètres de dénivelé, c'est costaud. Ouais. Quoi. Ouais, et puis, il y a aussi tout un parcours. J'ai envie que tu me racontes ça juste après. Il y a aussi toute une façon de s'inscrire qui est très particulière avec le fondateur de cette course qui est un personnage emblématique. On va en reparler, mais en tout cas, ça cale le décor. Du coup, tu es le premier Français aussi à terminer cette course. Du coup, c'est effectivement un gros coup de lumière sur toi et ta pratique, alors que tu avais fait, enfin pour moi, des exploits, des vraies performances dans le trail, que j'ai envie que tu racontes aussi. Comme je te disais en préparation, il y a une question qui est mythique sur le podcast que je peux demander à tous les invités, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport.
Ouais, c'est particulier comme question. C'est vrai que j'en ai plein de souvenirs de l'époque. Mon premier, ça serait lié au foot, je dirais, parce que j'ai passé 16 ans de ma vie à faire du foot, et quand j'étais petit, je voulais devenir footballeur professionnel. C'était mon plus grand rêve, mais j'en avais juste pas les moyens. J'étais un footballeur amateur avec plein de prétentions, mais qui avait pas les moyens. Donc je me suis concentré sur mes études ensuite. Hein. Mais voilà, un premier souvenir, je dirais la finale de la Coupe du Monde 98. Je me rappelle que j'avais 7 ans, j'étais dans mon salon, chez moi, j'étais seul, j'étais avec mes parents. J'en ai des vagues souvenirs et j'ai vu que déjà c'était incroyable ce qui se passait. On était champion du monde pour la première fois de notre histoire, et moi je voyais ça avec des étoiles dans les yeux et j'étais fier et ça me donnait envie, ça m'a fait rêver. Donc je pensais à ça, et c'était voilà, 16 ans de ma vie quand j'étais jeune, le football, avant d'aimer la randonnée et l'ultra. Et peut-être un second souvenir qui me vient en fait après avoir fait la Barclay, c'était les balades un peu avec mon père quand on allait ramasser les champignons dans les Pyrénées. C'est quelque chose que j'aimais pas trop à l'époque, parce qu'on faisait du hors-sentier, on sortait des sentiers battus en fait, justement pour ramasser les champignons, on est obligé quoi. Ouais. Et du coup c'était compliqué, et moi à cet âge-là, je voulais faire du foot et je voulais faire d'autres choses en fait. Et je me rappelle maintenant avec un peu de nostalgie, et je me dis, c'est dingue parce que ça représentait énormément, ça se rapprochait du terrain de la Barclay au final. C'était du hors-sentier, c'était en forêt, et j'aimais pas trop ça quoi. Mon père il me tirait par le col à chaque fois pour aller ramasser les champignons, alors que maintenant je trouve ça génial. Bon, j'ai pas ramassé des champignons sur la Barclay, mais je pourrais faire ça dans les Pyrénées en ce moment, et ça me plairait encore plus quoi. Donc c'est un second souvenir que j'aimerais partager, parce qu'au final voilà, c'est un peu marrant avec le recul, comme quoi on change avec les années.
Ouais, c'est dingue, on a des petites madeleines de Proust, et en fait même si on n'aimait pas quand on était enfant, c'est ça déclenche des petites choses. Moi ça me fait penser à un souvenir, mon père tu vois a couru plusieurs marathons, et je sais que le dimanche matin, le samedi matin, il me traînait pour que moi je le suive en vélo ou que je le suive en trottinette, et tu sais au mois de décembre, février, enfin janvier février, parce que bah là nous on était dans le bois de Vincennes, ça me saoulait de le suivre parce qu'il pleuvait, il faisait froid et tout, et au final j'étais quand même super fier de mon père qui allait courir, tu vois, qui a fini ce marathon. Et à l'époque ouais, j'aimais pas du tout, mais en fait maintenant en fait je me revois recourir sur cette même boucle autour de ce même lac, et c'est un énorme plaisir quoi. Donc
oui, c'est vrai, avec le recul comme tu dis, on n'a pas les mêmes plaisirs. Après forcément on est jeune, donc on a d'autres priorités, mais c'est vrai qu'avec le recul c'est marrant de se rappeler de ça quoi.
Ouais. Et je te dis sur le foot, tu jouais quel poste, j'imagine Plutôt avant-centre, plutôt, je t'imagine bien arrière-droit ou ailier, tu vois, à faire des allers-retours.
Un peu, ouais, c'était un peu ça. J'étais avant-centre, plutôt sur l'aile, et c'était un peu ça. J'aimais bien voilà, faire des appels, en fait, assez rapides, des sprints un peu pour voilà, percer les défenses, entre guillemets, et avoir des ballons en profondeur. J'aimais bien faire ça. Ça m'arrivait de faire latéral à un moment donné. Pareil, du coup, c'est un peu des sprints, là, pour le coup, pour défendre les attaquants qui, eux, font les appels. Donc, c'était un peu ça. Voilà, beaucoup de fractionnés, je faisais à l'époque. Pareil, quand je pense à ça, je suis un peu nostalgique. Je me disais quand même, j'étais rapide. Mais depuis que je fais de l'ultra, j'ai perdu toute vitesse. Je suis plus du tout explosif. Je suis un lent, entre guillemets, qui n'est plus capable d'être du tout dynamique, quoi. Avant, j'étais vraiment très dynamique sur les fractionnés. J'étais assez rapide. Mais voilà, après, avec le temps, l'endurance, c'est l'inverse, en fait. C'est pas du tout... d'explosion, quoi. C'est vraiment juste une allure assez lente. Mais voilà, j'étais le profil rapide à l'époque. Ouais.
Ok. Ouais, puis j'imagine que maintenant, tu le bosses plus du tout, ton explosion, non. Ta rapidité, quoi.
Donc... Non, du tout. Puis d'ailleurs, dans mes entraînements, je fais jamais trop de fractionnés. Je fais pas trop de travail qualitatif, comme on l'appelle. Je fais plutôt du quantitatif. Et je fais plutôt des séances plaisir, où je suis dans une allure endurance la plupart du temps. Les seules séances qui sont moins plaisir, c'est des séances de répétition en côte, hein, où je prends une même côte en fait, qui est assez pentue, et je la fais plusieurs fois pour faire un gros ratio de dénivelé, mais ça je le fais aussi assez à faible allure en fait, donc je fais jamais de travail explosif.
Ok, et tu prenais plaisir à faire du foncier dans le foot, parce que moi je suis passé par le tennis, mais j'avais aussi beaucoup de copains qui ont fait du foot, et tu vois, qui faisaient tous ces tests, tu vois, de les Luc Léger, les tests de VMA, où t'en fais quand même beaucoup tous les ans, c'est un peu obligé de passer par ce travail-là. Toi, tu prenais du plaisir à le faire, gamin, ce...
Bah, c'était cool, parce que j'avais de bonnes sensations lors de ces tests-là, donc ça me remettait en confiance. Je me disais au début de la saison, c'est bon, t'es prêt. Et j'aimais bien me mettre dans la zone rouge de temps en temps, hein, pas tout le temps, hein. Là, je dois avouer que j'ai de plus en plus de mal parce que je fais des belles balades en fait dans les Pyrénées, et le plaisir il est tout autre en fait, et j'ai du mal à naturellement, je sais plus, mais quand je sais que j'ai des séances de fractionnés à faire, surtout en piste en fait, ou dans un environnement qui me plaît moins, j'ai du mal à me dire on se met dans la zone rouge et on fait que ça. Là, j'ai vraiment juste envie de faire une longue sortie en montagne le week-end, et juste voilà, de la faire très longue. Mais vu que je la fais très longue, si je me mets dans la zone rouge à certains moments, c'est pas raisonnable. Si on veut faire des longues sorties, il faut quand même pouvoir se gérer. Donc j'ai un peu perdu ce plaisir-là, mais à l'époque, ouais, j'aimais bien un peu me pousser la machine au max. Ouais.
Ouais, après, ça donne goût, tu retrouves la sensation différemment. Je trouve, quand tu fais de l'extrême endurance, tu vois, parler un peu d'avoir la tête qui tourne ou ces petites hallucinations, tu peux aussi l'avoir sur des moments, enfin sur des entraînements beaucoup plus courts ou très lactiques, quoi, tu vois. C'est pas tout à fait la même sensation, mais t'as une forme d'adrénaline, une hormone, je pense, qui doit être un peu similaire.
Ouais, c'est vrai. Ouais.
Et à quel moment, du coup, à part ces balades aux champignons, d'ailleurs, je sais pas ce que vous ramassiez, mais sûrement des cèpes, mais à quel moment tu tombes dans la course à pied, dans l'endurance, dans la randonnée, dans l'ultra ?
La randonnée, très tard, hein, à partir de 2016. Hein. J'avais quoi ? J'avais 25 ans au final. Avant, je me rappelle, je faisais quelques randonnées. En l'occurrence, quand j'étais au Japon, par exemple, hein, j'ai passé 6 mois à Tokyo. J'avais 21 ans. Et on avait fait une randonnée avec des amis. Et je me rappelle, j'avais pas trop pris de plaisir. Je me disais, j'aurais préféré être en ville, je sais pas, à me balader juste en ville, en fait. Et être en montagne, ça me parlait pas trop à cette époque-là.
T'avais fait le Mont Fuji ? Je te coupe, mais...
Non, justement, je l'avais pas fait parce qu'en fait, c'était pas quelque chose qui me parlait. Donc j'aurais pu m'organiser. Je le regrette pas parce que j'étais dans une période de ma vie qui était différente. Mais ça ne m'était même pas venu à l'esprit. Donc, je ne m'étais pas organisé pour faire ça, quoi.
Ouais. Ouais.
Donc, à ce moment-là, voilà, j'ai déménagé aux États-Unis ensuite, à l'âge de 25 ans, justement. Et c'est là où j'avais beaucoup de temps libre. Et j'étais à Phoenix, en Arizona. Et en Arizona, il y a énormément de balades à faire, principalement au Grand Canyon aussi, où là, c'est juste incroyable. Et j'y passais la plupart de mes week-ends. Et donc, du coup, là, je voulais visiter l'état de l'Arizona du mieux que possible parce que je savais que j'allais ensuite éventuellement rentrer en France. Et du coup, voilà, je passais mes week-ends à faire ça, je commençais à augmenter les distances de randonnée pour voir de plus en plus de paysages, mais toujours à un week-end pour éviter de poser des congés. Et c'est là où j'ai vraiment commencé à aimer l'ultra-distance, à faire des choses super longues pour voir le plus de paysages possible, tout aussi en me construisant un peu de l'endurance et en apprendre plus sur moi-même. Donc il y avait ces deux démarches qui ont démarré quand j'étais là-bas, justement.
Ok. Et au début, c'était vraiment de la marche, quoi. Tu n'étais pas du tout dans une démarche de course
Ouais, okay. Du tout. En fait, voilà, c'était... J'ai transitionné sur de l'ultra trail, entre guillemets, où là, j'ai commencé à intégrer un peu plus de course à pied, des entraînements pour gagner en endurance et en physique et m'améliorer, en fait. Mais de base, c'est plus la continuité de randonneur, de marcheur et de longue randonnée, où là, je faisais que marcher, en fait. Et après, j'ai appris à trottiner dans les descentes, à courir sur le plat, etc. Mais c'était pas naturel dès le début, quoi.
Bien sûr, bien sûr. T'as une peut-être un spot à nous recommander aux États-Unis. Il y en a tellement, tu vois. Moi, à chaque fois, je suis halluciné par tous ces décors, tous ces paysages. Alors, on est très gâté en France. Je pense qu'on est on est un des pays les plus chanceux, tu vois, quand on voit la taille du territoire et la quantité de paysages qu'il peut y avoir entre les Pyrénées, les Alpes, la côte basque qui est somptueuse, la côte d'Azur qui est magnifique, et puis même à l'intérieur des terres, quoi, les gorges du Tarn, les gorges de l'Ardèche qui sont. On a beaucoup, beaucoup de chance, mais aux États-Unis, il y a des paysages encore plus extrêmes, tu vois. Je pense au Yosemite, tu vois, aussi au Grand Canyon que tu as mentionné. Toi, c'était quoi les favorite spots que tu as pu avoir là-bas?
Au Grand Canyon, j'en connais plusieurs. Moi, je dirais le Grand Canyon parce que c'est vraiment là où j'ai commencé à faire de l'ultra et ça représente un peu mon second lieu de naissance, entre guillemets, quoi. Parce que du coup, ma vie a un peu changé depuis que j'ai fait de l'ultra et j'ai beaucoup avancé depuis. Donc, le Grand Canyon, ça a une symbolique forte pour moi et c'est un endroit qui est vraiment magnifique. Et il y a, dans le Grand Canyon, énormément de choses à faire. Il y a une randonnée en particulier qui s'appelle Little Colorado River, qui est assez technique, très compliquée d'accès, mais du coup, on se sent énormément privilégié une fois qu'on l'a fait, où là, il y a une rivière d'un bleu turquoise qui est juste incroyable. Donc il y a cet endroit que je recommande souvent, mais il est peu accessible, donc il faudrait le faire sur plusieurs jours de randonnée, si on ne se sent pas de le faire sur la journée. Donc il y a ça. Et après, ce que tu as dit, Yosemite aussi, c'est le lieu du John Muir Trail pour moi, qui était très important. Et le John Muir Trail, c'est magnifique, mais ça représente 360 km, donc c'est quelque chose qui se fait aussi avec un peu de temps. Mais voilà, le Grand Canyon, ça reste pour moi quelque chose de très important et magnifique et que je recommande à chacun d'aller voir, quoi. C'est juste grandiose.
Ouais, bah, écoute, je prends note de tes recommandations et je le mets dans ma wishlist. Pour un jour, j'aimerais vraiment voir ces décors. Est-ce que y a cette culture du trail ou justement de la randonnée? Je me demande, en France, tu vois, on sent par endroit que t'as cette vraie effervescence, ou à La Réunion, tu vois, il y a des terres de trail. J'ai du mal à me rendre compte si là-bas, tu rencontres beaucoup de trailers, beaucoup de marcheurs, si ça vit en fait, si ça vit trail.
Sa vie trail, après, c'est particulier parce que y a tellement de grands espaces en Arizona qu'en fait, on se sent moins, enfin, on les voit moins en fait, parce qu'il y a tellement d'options que ça se disperse pas mal. Et ensuite, sur les certaines randonnées, celle du John Muir Trail par exemple, il y a tout un système de permis en fait où ils préservent le parc. Et en fait, on ne peut pas être 500 personnes à partir sur la même randonnée le même jour en fait. C'est très préservé. Donc, ce John Muir en l'occurrence, j'ai fait des demandes de permis à chaque fois. Et en fait, quand on est là-bas, on se sent seul. Il n'y a pas grand monde autour de soi en fait, justement parce que c'est limité. La plupart des randonnées et des parcs où c'est important, c'est limité. Par contre, clairement, la culture du trail, elle est importante. La Western States, la Hard Rock, c'est des choses, des courses mythiques. Il y a une grosse communauté de coureurs qui existe et qui veut faire ces courses-là. Il y a d'autres courses aussi. Il y a un gros circuit en Arizona qui existe. Donc, la culture est très présente. Elle est un peu différente, mais c'est vrai que les petites différences sont difficiles à expliquer. Au-delà de ça, c'est vrai que dans les Pyrénées, ici, quand je me balade, je croise beaucoup de personnes pour ces raisons-là, parce que ben c'est proche, c'est accessible, alors que les États-Unis c'est immense en fait. Donc ça se disperse un peu plus.
Ok, d'accord, ouais, je vois. Et puis t'es tout de suite sur des énormes distances avec où t'es très loin de la vie citadine. Donc t'as tout de suite intégré, j'imagine, la dimension d'autosuffisance et de solitude, tu vois. C'est dans tes randos, ouais.
Ben tout à fait. Donc le Grand Canyon, déjà, il y a pas beaucoup de points d'eau accessibles. Il y a que le Colorado qui est en bas. Donc entre-temps, y a rien, quoi. Donc il faut vraiment avoir toute son eau sur soi, son ravitaillement, sa nourriture, etc. Donc rien que ça, déjà, faut être autonome. Et à nouveau, l'exemple du John Muir Trail, c'est 360 km où il y a zéro refuge. Il y a rien, quoi. On est vraiment dans la nature. Il y a juste une seule route à un moment donné qui peut nous ramener à la civilisation, entre guillemets, au bout de 250 km, je crois. Mais sinon, après, il n'y a rien, quoi. Donc, clairement, il faut être autosuffisant. Il n'y a pas moyen de se mettre des ravitaillements sur le parcours, sauf à cet endroit-là, là où il y a la route. Donc, oui, moi, je me rappelle, j'avais fait ça sans assistance, comme la plupart des randonneurs le font aussi avec tout leur matos. Hein, et j'avais toute la nourriture sur moi et voilà, et tout mon matos aussi. Il faut être autonome. Si jamais il y a quoi que ce soit qui arrive, si on se foule une cheville, faut avoir un petit kit pharmacie et il faut être autonome, c'est ça.
Ok. Je vois un petit peu aussi le Grand Canyon, toi, comme un endroit un peu dangereux où tu pourrais avoir des scorpions, où la faune et la flore peuvent être te piéger, quoi. Il t'est arrivé des petites aventures comme ça, un peu risquées de.
Ouais, quelques-unes. Après, c'est pas des choses très graves. Je connais des gens qui. Tim Wormsley, par exemple, qui est assez connu dans le milieu du trail, il a croisé un puma à un moment donné au Grand Canyon.
Ok.
Un puma, c'est assez dangereux. Donc, moi, j'en ai pas croisé. Et quand j'ai vu son histoire, je me suis dit, waouh, je suis content de pas avoir été à sa place. Moi, ce qui m'arrivait souvent, c'était des rattlesnakes, des serpents à sonnette, de mettre le pied à 10 cm d'un serpent et de l'entendre, voilà, il bouge la queue et on voit qu'il est là, quoi. Donc, ça, c'est assez flippant. Ça m'a fait vraiment peur. Parce que c'est des serpents dangereux. S'ils nous mordent, c'est. Voilà, c'est. Ça met notre vie en péril. Donc ça m'arrivait plusieurs fois quand même de mettre le pied juste à côté d'un serpent à sonnette, ouais, 3-4 fois. Au-delà de ça, non, les scorpions, ils sont pas mortels, c'est des petits scorpions qu'il y a dans le Grand Canyon, c'est des choses qui sont pas dérangeantes, mais surtout les serpents à sonnette et après les pumas, mais ça c'est très rare.
OK. Mais ça va, tu t'es jamais fait piquer, mordre ou quoi que ce soit?
Heureusement, les vaccins, ils sont très chers aux États-Unis pour les serpents à sonnette, c'est je sais pas, c'est entre 6 000 et 10 000 dollars je crois, si enfin, c'est pas un vaccin du coup, c'est un antivenin quoi. On en parlait avec les collègues, on se disait il faut prendre des précautions, faut faire attention et ouais, ça peut monter, c'est des gros tarifs quoi. Mais parce que ça va vite, hein, le venin, il est mortel donc faut faire attention. Hein.
Bah effectivement, ouais, y a un effet marketing qui fait que bon, ouais, pour 6 000 dollars, tu les payes pour vivre, quoi. Ok. Mais écoute, c'est passionnant, tu vois, et enfin, c'est un privilège, je trouve, de pouvoir parler de ça avec toi parce que c'est assez rare dans le trail de français, tu vois, d'avoir l'œil de quelqu'un qui voyage là-bas et qui découvre cette culture-là. Enfin, il y a vraiment le trail américain et le trail européen, je trouve, et c'est souvent ces deux mondes qui se cohabitent pas souvent, tu vois, sur l'ITMB ou sur la Diag, tu vois pas souvent des Américains. Alors, il commence à y en avoir, il y a de plus en plus de nationalités, maintenant c'est un circuit international, mais c'est aussi rare d'avoir leurs histoires, leur culture et de comprendre, tu vois, cette différence, tu vois, parce que tu vois, sans rien dévaloriser, c'est pas dans les Pyrénées qu'on trouve des pumas ou bon, il y a peut-être quelques loups, tu vois, et encore, mais
faut faire gaffe aux ours, mais il y en a pas beaucoup non plus. Non, le danger principal dans les Pyrénées, c'est les patous, malheureusement, c'est les chiens de berger, de troupeaux. C'est là où moi, chaque fois, je croisais des randonneurs, souvent ils se faisaient mordre par des patous parce qu'ils évitaient pas les troupeaux. Faut éviter les troupeaux, mais ça, c'est des menaces entre guillemets qui sont naturelles ici chez nous, qu'il faut faire attention. Mais c'est vrai qu'en termes de faune extérieur, les loups et les ours, on risque pas grand chose.
Ouais. Ouais, puis tu reviens aussi plus vite à la ville, au contact de l'humain, quoi, donc c'est différent. À quel moment tu découvres la Barclay? C'est quoi ton premier contact avec la Barclay?
Mon tout premier contact, il était en 2012, lorsque j'avais vu le reportage de Patrick Montel sur Stade 2, je crois que c'était. J'avais vu cette course, j'étais à nouveau en 2012, c'était la période où j'étais allé au Japon, j'étais pas du tout dans le délire de la randonnée ou de l'ultra, je savais pas que ça existait, les ultras. J'ai vu ça un peu comme une course de fou en fait. Je comprenais vraiment pas pourquoi les gens ils y allaient alors qu'ils savaient qu'ils allaient échouer et qu'ils allaient souffrir. c'était comme ça que c'était présenté en fait via Patrick Montel. Il disait voilà, c'est une course très difficile, il y a des ronces, c'est de la souffrance et en plus on sait qu'on ne va pas terminer. Donc je me suis dit à quoi bon quoi, enfin, ça sert à rien quoi, j'irai jamais quoi. Donc j'étais comme ça. Et ensuite, en 2017, j'avais fait une rando voilà, au Grand Canyon en particulier, où on m'avait dit que j'allais échouer, que je prenais des risques pour ma vie, etc. Et ça m'a beaucoup inquiété. Et j'ai failli ne pas la faire.
Avant de partir.
On me le dit avant de partir, parce qu'en fait, j'avais proposé à d'autres de venir avec moi sur un groupe Facebook du Grand Canyon, en fait. Et là, on m'a dit que c'était inconscient déjà de le faire, moi, et en plus d'embarquer d'autres personnes avec moi, quoi. Donc on m'a fait comprendre que j'aurais juste dû me taire et ne rien faire quoi.
Mais pourquoi on te dit ça? C'est pourtant tu l'as trouvé cette rando, donc elle devait être plus ou moins balisée ou
non? Justement,
il y avait une trace? Non, il y avait rien, il y avait pas de trace.
Non, c'est pas une rando balisée, c'était une rando un peu hors sentier, ouais. Que les gens font sur 3 jours à peu près environ. C'était 60 km et 3000 mètres de dénivelé, mais hors sentier où il y a pas d'eau sur le sentier. Le seul point d'eau, c'est le Colorado, c'est tout en bas. Du coup voilà, souvent ils mettent des points d'eau avant de faire la rando, ils font ça en plusieurs allers-retours avant d'y aller et moi je pensais que je pouvais le faire sur la journée en fait. Je me suis dit tu descends vite au Colorado, tu prends de l'eau et tu prends le temps de remonter avec 3 litres d'eau et,
ouais.
Et ça devrait aller. Et j'avais proposé ça et en fait on m'a fait comprendre que c'était pas raisonnable quoi. Donc j'étais déçu parce que je pensais que c'était réalisable. Après j'y connaissais rien, je faisais de la randonnée, j'avais jamais fait de hors sentier. Okay. Donc j'étais en train justement aussi de récupérer les informations, voir ce qui est faisable ou ce qui ne l'est pas quoi.
C'est à ce moment-là que tu commences à te lancer ouais, des défis et aller explorer hors sentier justement.
Ben moi cette rando en particulier c'était un déclic parce qu'au final j'ai failli ne pas la faire et je l'ai faite hein. Et je l'avais faite en 13 heures justement, je l'avais faite sur la journée. Et du coup quand je suis ressorti de là, bon j'étais cramé hein, j'avais les jambes, j'arrivais plus à marcher et tout ça. C'était mon premier gros défi entre guillemets. Et je suis ressorti de là, je me suis dit c'est dommage, j'ai failli pas la faire, c'était magnifique, c'était une expérience de dingue, j'en ai appris beaucoup sur moi-même, etc. Et ce facteur extérieur en fait a fait que j'ai failli me limiter quoi. Et je préparais rien en particulier, je m'entraînais pas, je faisais juste des randonnées les week-ends.
Pour le plaisir, quoi.
Exactement, exactement. Et du coup, là, bah, 2-3 jours après, ça m'a fait le déclic. Et je me suis dit, ce serait bien que tu te donnes un objectif particulier, que tu prépares d'une façon particulière, pour voilà, en découvrir plus sur toi-même et vraiment voir où sont tes limites, quoi. Et ces objectifs, c'était la Barclay, parce que j'ai vu à nouveau, en faisant quelques recherches, courses les plus difficiles au monde, etc., en faisant mes recherches, et elles ressortaient. Et là, je me suis dit, ah ouais, c'est ce reportage de 2012 de Patrick Montel. Et là, ça m'a parlé différemment. Je me suis dit, j'aimerais savoir à quel point je peux, où est-ce que je peux aller sur la course, sans forcément vouloir la finir, mais j'ai envie d'échouer, j'ai envie d'aller le plus loin possible, de m'amener dans mes retranchements pour ben, me tirer vers le haut, quoi. Voir quels sont mes retranchements et comment je peux m'améliorer. Donc j'ai vu que j'allais échouer et ça me convenait en fait, mais je me suis dit ça va me permettre d'apprendre et de me tirer un peu vers les hauts, quoi. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit ah ouais, c'est exactement cette course que je veux faire, et après tout a démarré à partir de là, quoi.
Qu'est-ce qui a changé dans la tête d'Aurélien pour qu'il passe du mec qui aime pas trop la rando et qui comprend pas pourquoi des fous vont sur une course pour échouer et se faire mal, à justement celui qui a envie de chercher ses limites? Qu'est-ce que tu viens chercher ?
C'est ça, en fait, c'est la découverte de soi-même. C'est naturellement, j'ai fait des randonnées pour le plaisir, pour découvrir des paysages. Et en fait, je me limitais et je restais dans ma zone de confort. Je me disais, je suis capable de ça. J'ai fait 1500 mètres de dénivelé, donc c'est le genre de randonnée que je peux faire. Je peux pas forcément, je peux pas faire 3000, je peux pas faire 4000, en fait. Mais au fur et à mesure, il y avait des endroits que je voulais voir qui étaient de plus en plus loin. Et je me suis dit, toujours un petit peu plus, ben pourquoi pas, j'ai fait 1500, je peux faire 2000 mètres de dénivelé, et etc. Après j'ai fait 3000, c'était cette randonnée dont je t'ai parlé juste avant, et là je me suis dit, en fait, le chiffre, c'est juste un chiffre absolu, quoi. Enfin, faut pas le voir dans son entièreté, quoi. Dans le chiffre global, faut voir ça juste comme un pas de plus, en fait. Et là je me suis dit, c'est intéressant parce que je me suis limité, alors qu'en fait il y a énormément de possibilités d'en apprendre plus sur soi-même. Et voilà, j'avais pas peur de me lancer dans des trucs où j'allais échouer, et je me suis dit, voilà, là c'est intéressant, je me rendais pas compte avant qu'il y avait des possibilités, là en fait il y en a énormément, donc il y a plus qu'à se lancer, et à découvrir ce qu'il en est, quoi, et à gagner en expérience. Et après, bon, j'ai eu énormément d'explosions, plein de trucs qui se sont mal passés, des fautes d'inexpérience, mais là c'était le début de la curiosité, en fait, me dire qu'est-ce qu'on peut faire et comment le faire. Et du coup, voilà, je me suis lancé des objectifs, le John Muir Trail en étant le premier, et ensuite par la suite, voilà, j'ai eu plein d'expériences qui font que ça m'a un peu donné raison. J'ai appris plein de choses sur moi, mes défauts, mes faiblesses, hein, qui ont fait que j'ai réussi un peu à, voilà, à en apprendre beaucoup plus, quoi.
Mais c'est ce que je trouve magnifique, tu vois, dans ton histoire, c'est que t'es un peu monsieur tout le monde au début, tu vois.
J'aime l'être, ouais, ouais.
De l'enfant qui est footballeur, tu vois, comme beaucoup d'enfants, tu vois, et t'es parti en quête de toi, tu vois, et je trouve ça beau, cette image d'aller chercher et de pas trop se donner de limites, parce qu'en fait, ton potentiel, enfin, t'as cru en ton potentiel qui est infini, quoi, tu vois.
C'est un peu ça que je me disais. Je me suis dit, en fait, ne mettons pas la barre ni à 2000, ni à 2500, ni à 3000. Enfin, peu importe, on la met pas, la barre, en fait. On la met à... Ben si, on la met aux gens qui m'ont inspiré beaucoup, en fait. La première inspiration que j'ai eue, c'était Andrew Benz, qui avait le record du John Muir Trail. Et quand j'ai vu sa vidéo où il a fait le John Muir en 3 jours, je me suis dit, c'est incroyable. Je pensais pas que c'était possible. J'ai vu sa vidéo plusieurs fois, je me suis dit, c'est incroyable. Mais il a fait, en fait. Donc, ça veut dire que c'est faisable. Donc, je me suis dit, ben, pourquoi pas moi, en fait. Je vais analyser ce qu'il a fait, comment il s'est entraîné, quel matériel il a utilisé. Si je change quelques trucs, si je pars plus léger que lui, si je dors moins que lui, je peux aller à une allure plus faible que lui, tout en faisant la même chose. Donc, c'était là où c'était intéressant de se dire, de ne pas se donner de limites en s'inspirant des autres qui l'ont déjà fait, et en faisant des petits ajustements pour voir comment on peut faire son aventure aussi personnelle.
Mais non, mais c'est passionnant, et je trouve que c'est hyper inspirant pour tous, tu vois, de se dire qu'on peut se lancer des défis et qu'on peut aller chercher. La Barclay, ça t'est tout de suite venu comme une évidence que ça serait cette course que tu voulais faire, de ce que je comprends. Est-ce que tu as un plan à ce moment-là?
Donc non, au tout début, forcément. Le plan, c'est j'aimerais bien faire la Barclay. Ça m'est paru comme une évidence parce qu'elle représentait tous les facteurs que je recherchais. L'autosuffisance, la gestion du sommeil, et après, comme les médias l'a présenté, en fait, le défi que personne ne peut finir, voire une poignée, et je me mettais pas dans cette poignée à ce moment-là, mais je savais que je voulais échouer, entre guillemets, et je savais que je voulais me tester, me pousser dans les retranchements. Et cette course, avec 1% de taux de finish, c'est la course qui représentait exactement ce que je recherchais. Il n'y en avait aucune autre qui existait, en tout cas qui me parlait autant. Donc ça, c'était évident. Et à partir de ce moment-là, la question, c'est comment on y participe. Et donc là, j'ai fait mes recherches, j'avais pas de plan. J'ai vu que Brett Mahoney, le recordman de la Barclay, qu'il a fini deux fois et qu'il a fini la seconde fois en 52 heures et quelqu'un. ce qui est exceptionnel, ouais. C'était assez rapide pour le défi. Il avait été pris à la Barclay, lui, en faisant son record sur le John Muir Trail. Donc je me suis dit, si lui, il a été pris à la Barclay grâce à ça, pourquoi pas moi, en fait ? Et le John Muir, ça représentait un défi qui me correspondait et que j'aimais. C'était sur trois jours. C'était la Sierra Nevada, un endroit magnifique. Hein. Et j'ai analysé le record de Andrew, parce qu'Andrew avait amélioré le record de Brett Mahoney. Et j'ai commencé voilà, à me projeter, à me dire, est-ce que c'est faisable ? Est-ce que ça ne l'est pas ? Et j'ai commencé à y croire, en fait. Et je me suis dit, pourquoi pas, si justement, je réduis mon matériel, si je dors moins, que je fais ça presque en non-stop, en super light, je pense que je peux être moins rapide que Andrew, mais améliorer le temps quand même. Du coup, je me suis dit, si je fais ça, ça pourrait être mon ticket pour la Barclay. Donc voilà, mon plan, il a commencé à partir de là. Ça a duré à peu près 2 ans, où j'ai eu pas mal d'échecs. Et ensuite, ça a continué suite à ça, quoi.
Ok. Je voulais t'amener sur le sujet de l'obsession aussi. Parce que tu l'as pas encore mentionné, mais dans une super interview que tu as fait avec mon ami Guillaume sur Course Épique, tu dis que tu es absolument obsédé par cette course. Tu as expliqué qu'est-ce qui te fascine, mais comment ça s'est traduit cette obsession ? En termes de temps, en termes de recherche, est-ce que tu t'en parles tout le temps ?
Ouais, ouais.
Je suis curieux de savoir parce que tous les passionnés ont tu vois, forcément des moments où tu vrilles, tu coupes un peu du monde. Tu n'as que ça en tête, quoi, tu vois. Et je voulais savoir un peu. Ouais, toi, comment ça s'était traduit chez toi et à quel point tu avais pu faire des trucs un peu foufou pour cette course-là ?
Ouais, bien sûr. Donc, j'étais aux États-Unis à ce moment-là. Mon cercle proche d'amis, ma famille, etc., tous les gens les plus importants pour moi, ils étaient en France. Je passais la majorité de mon temps assez seul quand même, les week-ends et les soirs. J'étais avec des collègues, Philippe, s'il écoute le podcast, avec qui ça se passait très bien au travail. Et c'est un pote et on se contacte toujours. On partageait quelques randonnées avec lui, mais il avait sa famille aussi, donc on pouvait pas tout partager en fait. Donc j'avais aussi une grosse partie de mon temps en fait où j'étais seul et où j'ai galéré à rencontrer du monde parce que un peu un choc des cultures, je suis un peu introverti entre guillemets, je suis pas forcément à l'américaine quoi où il faut être à l'aise hein, avec des gens qu'on connaît pas, etc. Et faire des rencontres, c'était pas facile pour moi. Donc je faisais pas trop de rencontres en fait, j'étais assez seul entre guillemets. Et du coup,
ça je veux bien te croire, les Américains ils ont ce truc au café, ils se connaissent pas et tu les vois, ouais. Ils se posent à côté.
C'est ça.
Hey, what's up?
Voilà, c'est ça.
T'as l'impression qu'ils sont potes depuis 10 ans. Non, en fait, on vient de se rencontrer.
Exactement, ils sont super à l'aise avec ça et il faut être à l'aise avec cette culture si on veut rencontrer des gens. Et moi, je ne suis pas forcément en fait. Il faut que ça vienne avec le temps et j'avais un cercle en France qui était très important pour moi. Donc là-bas, c'était compliqué par rapport à ça. Donc j'avais beaucoup de temps pour moi, beaucoup de temps à faire des randonnées, beaucoup de temps à me donner cet objectif et à l'analyser et à le préparer. Et en fait, quand on a que ça, à quoi se raccrocher, entre guillemets, avec quelque chose qui me plaît et qui me passionne énormément, c'est-à-dire en découvrir plus sur moi-même, mais en fait, j'ai passé mon temps à faire ça ensuite. Et c'est devenu mon fil rouge, c'est devenu ma passion, c'est devenu voilà, ce pourquoi le soir je m'entraînais, les week-ends, etc. Et je me renseignais, je voyais les vidéos de Jamil Khoury en Arizona qui faisait la Barclay. Je suivais voilà, sa chaîne YouTube. Je passais mon temps à ça en fait, je me renseignais. Et au fur et à mesure de y passer du temps, de se passionner à ça, naturellement l'obsession rentre dans la tête en fait. On pense plus qu'à ça entre guillemets. C'est devenu naturel par la suite quand je suis rentré en France que je continue ce projet avec un peu moins d'obsession que j'avais aux États-Unis. J'ai eu deux phases en fait. J'ai eu la phase américaine où j'étais là-bas jusqu'en 2019. Où là j'étais obsédé par ça et je faisais que ça. Et la phase ensuite, en fin 2019, juste avant le Covid, où là j'étais avec mes proches, hein, j'ai gardé la passion du truc, en fait, les sorties en montagne et un peu derrière le fait de vouloir participer à la Barclay, même si j'y croyais plus trop, pour les raisons peut-être qu'on va évoquer avec plusieurs tentatives d'application, mais un peu moins d'obsession quand j'étais en France quand même. Un peu voilà, lié, je pense, au fait que j'étais un peu seul là-bas et que j'avais que ça dans la tête. Hein. Alors qu'ici, j'avais mon temps libre avec plein de personnes, en fait, et j'avais d'autres choses à faire, en fait.
Ouais. T'as compensé ce temps libre et cette passion pour la course de cette manière-là, ouais. Puis il y a du contenu, en plus. Comme tu me disais juste avant de démarrer l'interview, il y a une grosse partie invisible de l'entraînement qui est de lire les rapports de course, parce que beaucoup documentent. Tu vas le faire, toi aussi, j'imagine. Bon, il y a les podcasts, mais...
Je viens de le faire il y a quelques jours, là. Je viens de poster mon rapport de course. J'ai mis un peu de temps à l'écrire. Je trouve ça important, un peu de rendre l'appareil, entre guillemets, d'expliquer le cursus, voilà, le déroulé de la course, les détails, comment ça s'est passé dans ma tête, etc. Pour les autres, pour qu'ils ressentent du mieux que possible la course, pour le partage, pour les autres coureurs aussi, qui peuvent l'utiliser pour s'en inspirer et leurs autres courses. Et pour moi-même aussi. Je sais que des fois, ça m'est arrivé de revoir mon rapport de course du John Muir Trail et ça me replonge dans la course, ça me refait vivre, ça me fait vivre la course à nouveau en fait a posteriori, et je me rappelle des sensations que j'ai eues en fait et de ce que j'ai vécu, donc je trouve ça incroyable de mettre ça sur papier et de pouvoir ensuite le relire par la suite et de revivre un peu entre guillemets les mêmes émotions, donc ça je l'ai fait il y a quelques jours. Ouais.
Ok, mais c'est accessible via le web?
Je l'ai fait sur Facebook. Okay. Sur mon Facebook c'est disponible, ouais, normalement je suis en public, ouais.
Écoute, je prendrai le lien et je le mettrai en description de l'épisode pour tous les auditeurs qui sont curieux, j'imagine qu'il y en a, et c'est un format qui est... Moi j'adore lire les rapports de course, pour moi des fois c'est même trop court, tu vois, il faudrait que ça fasse des kilomètres et des... ça pourrait faire des bouquins entiers.
Vrai, il y a des courses qui sont tellement intéressantes et c'est enrichissant de voir les expériences des autres, donc je suis comme toi, moi je lis beaucoup de rapports de course et je trouve ça trop cool. Ouais.
Et à chaque fois c'est super différent. Tu vois, il n'y a pas deux courses qui se ressemblent. Certains vont te raconter, vont être beaucoup plus sensoriels, donc ils vont te raconter peut-être les douleurs qu'ils peuvent avoir. D'autres vont être un peu plus rêveurs, donc c'est plutôt la partie un peu vision, hallucination qui va vraiment les porter, tu vois. Et pareil, il y a toujours un fil rouge avec la motivation et ce que tu viens chercher, quoi. Donc j'adore ça, quoi. T'en as un, toi, qui t'a marqué en particulier. T'as mentionné pas mal de noms, mais... Il y en a peut-être un ou deux qu'on peut mentionner.
Il y en a tellement. Moi, tous les rapports de course qui m'ont inspiré, c'était ceux liés à la Barclay. Il y a un livre qui m'a beaucoup inspiré lors de ma traversée des Pyrénées. C'était le livre Latitude Zéro de Mike Horn, où là, il avait une histoire incroyable. Enfin, quand on voit toutes les péripéties qui se sont passées lors de son périple, c'est juste incroyable le fait qu'il termine cette aventure-là et la résilience qu'il a. Non, de tête, il n'y en a pas un en particulier, mais tous les rapports des anciens finishers de la Barclay sont incroyables, de détails déjà, pour comprendre un peu dans quoi on se lance, où voilà, ils font plein d'erreurs d'orientation, donc j'en ai pas un en particulier, mais le rapport de Brett Mahoney, ou de Nick Holland, ou de John Kelly aussi, John Kelly a fait un rapport très détaillé, Gary Robbins aussi, pour finir avec lui, qui lui n'a pas fini la Barclay, mais il a eu un épilogue dramatique en 2017, où il a fini, il s'est trompé au dernier virage, et sa course s'est terminée voilà, à la dernière section en fait, et il a fini aussi anecdotiquement 6 secondes après le délai de 60 heures.
Aïe aïe aïe.
Ouais, c'était terrible. Bon, il n'a pas été éliminé aussi à cause des 6 secondes, mais à cause du fait qu'il s'est trompé de parcours à la fin, mais ses rapports de course à Gary sont très intéressants, donc voilà.
Mais écoute, merci pour les recos, je vais essayer de les retrouver et d'aller les lire, parce que j'en ai pas lu autant que toi, tu vois, mais je pense que ceux-là sont cool. À quel moment tu fais ta première application pour cette course? Alors peut-être juste avant quand même de préciser, parce que on peut se dire ok, c'est facile aujourd'hui d'acheter un dossard. Bon, il y a une notion de prix, il y a un peu de logistique, tu vois, pour aller sur les fameuses courses comme l'UTMB ou la Diagonale des Fous, mais là c'est particulier, j'aimerais te l'entendre aussi un peu l'expliquer. N'importe qui ne peut pas postuler.
N'importe qui ne peut pas postuler, mais aussi à la fois tout le monde peut postuler. Et c'est ça que j'aime bien dans cette course. Donc en fait, comment postuler, ça c'est secret. Seuls les coureurs et seuls ceux qui veulent vraiment postuler se renseignent et trouvent comment postuler. C'est pas très compliqué, mais voilà, c'est pas sur Internet. Enfin, c'est sur Internet, mais il faut bien chercher pour le trouver quand même. Donc moi j'ai trouvé comment postuler assez rapidement à force de m'informer, etc.
On gardera le secret.
Voilà, on va garder le secret, et ceux qui veulent vraiment postuler feront les devoirs maison et se trouveront facilement.
Je crois qu'il faut envoyer un email à quelqu'un un jour particulier.
Exactement, c'est une histoire comme ça. Du coup moi j'ai postulé dès la première année, dès 2017. Par contre j'ai postulé en fait en ne pas postulant entre guillemets. J'ai envoyé mon email à l'AS. Et j'ai dit, cette année, je ne devrais pas être pris, en fait. Parce que je me suis lancé l'objectif du John Muir Trail et j'ai raté. J'ai pas réussi. C'était ma première année en 2017. J'ai échoué lamentablement. J'ai une grosse explosion. J'ai voulu rentrer dans le cercle. Je voulais lui montrer que j'avais déjà démarré mon projet. Donc, j'ai envoyé un email. J'ai dit, cette année, je ne devrais pas être pris. Par contre, j'ai tenté ça. J'ai échoué. Et l'an prochain, je vais retenter ça. Donc, je pense qu'il n'a pas dû lire mon email en entier, parce qu'à un moment donné il avait des milliers d'emails à traiter, et quand il a vu que je postulais même pas, il a dû peut-être passer au suivant, mais je voulais déjà lui expliquer ma démarche, et au moins a posteriori, si jamais un jour j'étais prêt, il pouvait retracer l'historique et se dire, ah, il a déjà postulé en 2017, il s'était donné les moyens, il a échoué, mais il avait déjà ça dans la tête, quoi.
Okay.
Donc ça c'était ma première année.
Hyper intelligent de faire ça, je trouve. Ouais.
Je sais pas s'il a retracé l'email. En tout cas, c'est... je me suis donné les moyens et j'ai directement envoyé un email.
Ok. Donc, tu envoies cet email, tu sais que tu vas pas être pris. C'est déjà pour poser tes premiers pions. Tu repostules l'année d'après, du coup ?
L'année d'après, j'avais réussi le John Muir Trail, pour le coup. Donc là, j'ai postulé en tant que vrai postulant, où j'ai expliqué mon parcours, que j'avais amélioré le record de Brett Mahoney et de Andrew, du coup. Et que là, je me sentais prêt, que je rêvais de vivre l'aventure, etc. Donc, j'avais passé du temps à écrire ça. J'avais pas été pris de 2018 pour 2019. Donc ça, c'était ma première postulation.
Tu pensais que tu allais être pris à ce moment-là ?
Ouais, j'y croyais. Pour moi, je m'étais convaincu que le John Muir Trail, il allait suffire, parce que ça représente un sentier assez iconique aux États-Unis. C'était un sacré défi pour moi. J'avais amélioré le record de Brett d'une dizaine d'heures, ce qui pour moi était incroyable. Je pensais pas l'améliorer de autant. Je voulais juste faire quelques heures à moins, quoi. Et ça s'était passé super bien pour moi. Donc je me suis dit, ouais, ça va suffire. Enfin, d'un point de vue, voilà, en 2018, j'étais là, j'ai mon ticket, quoi. J'étais comme ça, quoi.
je le mérite.
Ouais, j'étais dans cet état d'esprit-là, ouais. Okay. Après, bon, j'ai changé d'état d'esprit avec avec le temps, hein, mais à ce moment-là, en 2018, j'avais fait ce que je devais faire. Brett avait été pris grâce à ça. Je me suis dit, naturellement, je vais mériter ma place, quoi.
Pourquoi t'es refusé ?
Pas de raison particulière. Quand on est refusé, on ne reçoit pas d'email. Donc tous les jours, je me connectais sur mon Outlook, j'attendais l'email et condoléances. C'est une lettre de condoléances qu'on reçoit lorsqu'on est reçu à la Barclay. On a le regret de vous informer que vous êtes pris. Donc j'attendais cet email avec impatience. Il ne venait jamais. Fin janvier, début février, il n'était pas venu après quelques mois, après plusieurs mois. Donc là, je me suis rendu compte que ça n'allait pas le faire. Hein. Même pas en liste d'attente. Donc là, c'était un peu là. Voilà, j'étais très, très, très frustré. Je ne comprenais pas. Très déçu. Donc ça, c'était la première année. L'année d'après, ça a fait pareil. Je me suis relancé des objectifs, toujours liés à la Barclay, où j'avais fini la Baldy Marathon en 2019. Pareil, c'était un gros défi aussi, et j'étais convaincu que les deux assemblés allaient me faire rentrer à la Barclay. Pareil, nouvelle désillusion en 2020, où j'avais pas été pris, en fait. Donc là, ça fait poser les questions, la question que tu viens de poser. Pourquoi on n'est pas pris ? Et en fait, il faut voir le contexte, en fait. Il faut voir que la Barclay, c'est un événement atypique. Énormément de coureurs veulent la faire. Il y a une liste d'attente. Tout le monde peut la faire. C'est pas un CV en fait. C'est pas une question de à quel point on est endurant et ce qu'on fait. C'est une question de profil. C'est l'AS qui choisit. Faut accepter qu'il y en ait d'autres qui prennent notre place. Donc voilà, pour répondre à ta question, c'est l'AS qui fait un peu sa sauce. Il prend des profils qui l'intéressent plus que d'autres. Je pense qu'il attend aussi le bon moment. Peut-être qu'il a senti que j'étais un peu trop impatient, peut-être à l'époque, ou que c'était gagné d'avance pour moi dans la façon dont je l'ai écrit, peut-être. Donc il s'est dit non, c'est pas parce que t'as fait le John Muir Trail que tu vas être pris, peut-être. Il s'est dit. Donc voilà, c'est un mélange de ça. Place aux autres, place à tout le monde, place à la patience aussi. Donc voilà, je pense que c'est un peu ça. Ouais.
Petite leçon d'humilité, quoi.
Exactement, exactement. Et c'est ça qui me plaît aussi dans le parcours de la Barclay, c'est exactement ça, en fait. Ben voilà, il faut juste prendre du recul sur tout ça, quoi, et pas prétendre de quoi que ce soit et laisser les choses venir naturellement si elles doivent venir, et sinon, juste se concentrer sur le reste, quoi.
Ouais. Mais écoute, c'est passionnant. T'as pu lui en parler de tout ça ? Après la course, avant la course, à l'AS ?
Non, parce que j'ai compris, en fait, la démarche et j'avais plus de questions à me poser par rapport à ça. En fait, quand j'ai écrit mon email l'an dernier, je l'ai écrit dans une démarche où je savais que j'allais pas être pris. J'y croyais plus, en fait. Ça fait 2-3 ans que j'y crois plus. Où je me suis dit, il a ses profils, il a ses personnes qu'il veut voir sur la course et moi, j'en fais pas forcément partie. En tout cas, il m'a montré que j'en faisais pas partie en me mettant sur aucune liste, ni sur la liste principale, ni sur la liste d'attente. Donc, je me suis concentré sur d'autres choses, sur la Chartreuse Terminal Room, en l'occurrence, qui est venu mon objectif principal. C'est devenu la course que je voulais faire et là où je voulais en découvrir plus sur moi-même. Du coup, l'an dernier, j'ai écrit ma lettre en lui disant « Ma passion de l'ultra est née grâce à la Barclay. Ça restera toujours ancré en moi, ça restera mon fil rouge. Je fais d'autres choses maintenant, je suis passionné de plein de trucs, mais un jour, je rêverai de participer à la Barclay pour conclure la boucle, en fait. » Et j'ai compris, je ne m'attendais pas à être pris, vraiment. Je ne pensais pas être pris. Et là, quand j'ai été pris, j'ai vu qu'en fait, il savait, enfin, il a vu sans doute les expériences que j'ai eues jusqu'à présent. Il attendait juste le moment où je décroche, le moment où je me dise que justement d'autres méritent aussi leur place, le moment où voilà, où je sois moins peut-être obsédé par cette course, où je prenne plus de recul. Et là, il m'a pris, même pas sur liste d'attente, il m'a pris directement en liste principale. Et donc là, j'ai compris qu'en fait, c'était le bon moment pour moi, venant de lui, en fait. Il s'est dit, voilà, il a pris du recul, il est peut-être moins pressé, il a compris qu'il y a d'autres personnes, peut-être. Donc là, il a décidé de me donner ma chance pour ces raisons-là. Donc moi, à partir de là, j'ai eu ma chance cette année. Tout le reste du parcours faisait partie de mon histoire et je me suis plus posé de questions par rapport à ça, quoi.
Ok, ce qui est fou, tu vois, un peu dans ce que tu me racontes, ça me fait faire une passerelle avec un épisode que j'ai fait avec Pierre David, qui est préparateur mental, et qui dit souvent, en fait, il y a un déclic avec les athlètes qui s'opère le jour où ils perdent un peu l'obsession du titre, tu vois, et qui se disent, en fait, ok, en fait, je suis champion olympique ou je suis champion de telle course, que je l'ai ou que je l'ai pas, peu importe. Ce qui compte, en fait, c'est le process et qui je suis au quotidien, tu vois. Et j'ai pas besoin d'avoir accompli ce truc pour incarner, tu vois, ce que j'aime et faire. Et je pense que, enfin, dans l'histoire que tu me racontes, ça me fait penser à ça.
Ouais, c'est génial, c'est ça.
Que le jour où, en fait, tu t'es dit, bon, bah, en fait, la Barclay, c'est ma vie, mais que j'y aille ou que j'y aille pas, c'est pas grave, je continue, et puis le fil rouge, il est là. Ça t'a fait éclore, quoi, entre guillemets. Je pense dans les mots, quoi.
Bah, tout à fait, c'est ça. Moi, je pense que c'est la raison. En fait, je me suis vraiment focalisé sur d'autres choses. Je suis devenu passionné de ce sport, dans tous les cas. Donc, c'est pas quelque chose qui est contre nature. C'est pas une mission, comme on pourrait l'entendre, ou se dire, je veux finir ça parce que ça paraît trop cool.
Et puis après, c'est terminé. Ouais.
Voilà, c'est ça. Finir la Barclay, personne ne le fait. Moi, je veux le faire. C'est trop cool. C'est génial. Non, en fait, c'est venu naturellement. J'ai eu la passion du pentu, du dénivelé, de la montagne, du repoussement de soi, du manque de sommeil, de comment gérer son manque de lucidité, etc. Donc, y a d'autres projets, en fait. Il y a la Barclay qui m'a fait naître en tant qu'ultra-trailer, entre guillemets. Mais il y a d'autres projets aussi. Il y a la Termino Room qui, elle, est moins médiatisée et du coup moins intéressante au vu de certains coureurs, mais qui, pour moi, représente un défi... tout aussi excitant, quoi. Donc, je ne cherche pas la médiatisation, je ne cherche pas les lauriers, entre guillemets. La Termino Room, elle n'était pas médiatisée et c'est pour ça que peut-être elle a moins d'intérêt. Mais moi, c'est le défi sportif qui m'habite, en fait, et le repoussement de soi. Et du coup, quand j'ai vu ce défi-là, je me suis dit, c'est chouette, en fait. Enfin, je vais me focaliser sur ça. Je sais que je suis pris cette année-là, c'était l'an dernier. Ça me convient très bien, pas plus. La Barclay, elle a tout un historique qui est incroyable, une médiatisation qui vient derrière aussi, qui apporte quelque chose en plus que d'autres personnes vont chercher aussi, une visibilité, etc. Mais moi, c'était pas mon fil rouge, c'était vraiment le repoussement de soi. Donc quand j'ai réussi à décrocher un peu sur ça et à me focaliser sur d'autres choses, c'est exactement ce que tu m'as dit, en fait. Ça m'a permis, voilà, de prendre un peu du recul sur ça.
Ok. Comment est-ce que tu vois qu'il y en a certains... qui viennent justement chercher cette médiatisation ou qui viennent chercher ce défi mythique, tu vois.
J'en vois un peu sur les réseaux. J'interagis pas avec eux. Ça reste peu de personnes, je pense. Je pense que ces personnes-là ne sont pas prises à la course pour ces raisons-là. L'AS, il prend des profils de personnes qui sont passionnées et qui vont pour les bonnes raisons sur cette course. Je pense, en tout cas, enfin, c'est ce que j'aime croire. Et c'est ce que j'ai vu, en tout cas, sur la course. C'est vraiment des passionnés. C'est des gens qui cherchent pas forcément, qui sont vraiment dans le respect de l'événement, qui n'est pas un événement sponsorisé, où il y a peu de moyens, il y a peu de personnes. C'est un événement très confiné sur, une petite communauté.
Ouais, bien sûr. Et puis, en plus, ouais, tu peux te dire que des grosses stars du trail hyper médiatisées, en fait, ils seraient presque perdus, en fait, dans cette course complètement route où tout est minimaliste, c'est de l'instinct de survie.
C'est ça, faut que ça parle, en fait, faut que le défi parle, il vienne de soi, en fait. Il y a Cournet de Walter qui l'a fait deux fois, c'est parce que ça doit lui plaire, du coup. Il y en a d'autres comme François Daen ou Kylian Jornet qui ne l'ont pas encore fait. Je crois que certains ont dit sur certains médias qu'ils voudraient la faire un jour, mais c'est une question d'intérêt personnel, en fait, au-delà de tout. C'est juste une question de pourquoi est-ce que j'ai envie de faire la Barclay? C'est une course en boucle, c'est une course hivernale, où du coup on fait moins de ski peut-être lorsqu'on prépare la Barclay. Donc c'est une question très personnelle, au-delà du reste, en fait.
Et c'est marrant que tu en parles parce que justement on en discutait avec François, dont l'épisode sortira soit juste avant, soit juste après le tien, je sais pas, mais vous serez à côté. Parce que je l'ai rencontré la semaine dernière, je suis allé dans le Beaufortin.
Ah,
je disais que lui, c'est une course qui le fait rêver, mais en fait qui correspond pas du tout à son rythme, que lui il est passionné de ski aussi et qu'il a envie de skier tous les hivers et que du coup il se voit pas... Il y a aussi une dimension écologique, tu vois, mais il se voit pas, tu vois, s'entraîner l'hiver, redescendre dans la vallée pour courir... C'est pas lui, tu vois. Il me dit, c'est pas grave, on peut pas tout courir et il faut admirer ceux qui le font. Il faut respecter chacun son rythme. Enfin, il m'a expliqué que effectivement, j'avais pas compris ça dans la Barclay, que c'est un style de vie, tu vois. C'est une façon d'être, tu vois.
Ouais, il faut l'avoir dans le sang, le projet, en fait, mais pas que le jour de la course, parce que comme je te disais avant, en fait, il faut lire les rapports de course, faut s'imprégner de l'histoire de la course, de la carte du parc. Donc c'est des heures à passer, mais en amont de la course. Et clairement, voilà, quand on fait du ski et quand on donne une priorité à une autre activité, l'hiver en l'occurrence, vu que la course se passe fin mars, début avril, à chaque fois. Bah, clairement, c'est un style de vie et c'est des choix personnels. Moi, c'est des petits sacrifices à chaque fois que j'ai fait. Je voyais, voilà, les week-ends, je m'entraînais. Je voyais moins ma chérie Lucie. Là. Donc ça, forcément, c'est des choses qui sont moins plaisantes en janvier-février. Et c'était pour la Barclay. Donc clairement, c'est des choix personnels qui sont importants. Et quand on a d'autres priorités, comme le fait de faire du ski, ben, forcément, ça tombe mal, quoi.
Ouais, bien sûr, bien sûr. Et tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait beaucoup penser aux pilotes de chasse. J'ai eu l'occasion d'en interviewer deux, tu vois, et on parlait un peu du processus de sélection. Et finalement, on peut avoir l'idée du pilote de chasse où c'est un parcours très élitiste avec des gens qui sont très très bons en mathématiques, tu vois, avec beaucoup d'exercices. Et en fait, bah, c'est pas tant ça, c'est aussi la passion qui est jaugée lors des examens et justement pour rentrer dans ces cursus-là. Parce que justement, bah, tu peux être un gamin, ne pas être le plus doué, tu peux ne pas être le plus riche parce que faire de l'avion, ça a un prix. Je crois que tu peux piloter dès 15 ans, tu vois. Il y en a en fait à 18 ans, 20 ans, ils ont déjà presque des milliers d'heures de vol, tu vois, parce que les parents, ils ont les moyens, tu vois, et c'est un gros avantage. Mais tu es aussi pris, tu vois, dans les écoles de pilotage, justement pour tous ces gamins qui vont lire des livres, vont aller rencontrer des pilotes, s'informent, vont aller chercher des informations supplémentaires et vivent ce lifestyle, parce que être pilote de chasse, comme tu peux t'en douter, tu vois, c'est toute ta vie en fait. Tu peux pas, c'est difficile de rentrer chez soi et de le ranger. Dans le trail, j'imagine que t'as un peu la même chose, tu vois. Enfin, dans l'ultra, faut savoir couper, c'est sûr, mais c'est pas évident, quoi.
Non, c'est ça. Alors surtout après ce qui s'est passé depuis 2 semaines, en fait, j'ai vécu 10 jours, un peu plus d'une semaine après la course. Exceptionnelle de nouveauté pour moi, en fait, avec tous les médias, avec tout le partage, en fait, voilà, les journaux, etc. En fait, c'était incroyable.
Tu connaissais pas ça, du tout, ça avant?
Non, du tout. Moi, je suis pas, j'ai pas d'influence sur les réseaux, c'est pas ce que je cherche. J'ai pas de visibilité, on me connaît pas, et je suis dans mon train-train, et je suis, comme tu disais tout à l'heure, et j'en suis fier, un mec normal, en fait, et ça me va très bien, quoi. Mais du coup, j'aime bien avoir un équilibre quotidien. Tout ne tourne pas autour de l'ultra chez moi. J'aime faire, voilà, passer beaucoup de temps avec ma chérie en randonnée, des trucs classiques, quoi. Faire des week-ends. On a un van aménagé, voilà. Faire des week-ends dans le van.
Celui qui est là,
deux.
Avec lequel
celui qui est là, voilà, bon, exactement.
Tu pourras, ouais, faire un petit tour, ouais, je suis curieux.
Avec plaisir, ouais. Donc, j'aime les choses simples, en fait, et qui ne tournent pas forcément autour de l'ultra. Moi, d'habitude, j'ai une période off de octobre à mars-avril. Je fais des soirées, des restos, enfin, peu importe, quoi, mais je fais du sport toujours un petit peu, mais pas trop. Enfin, pas en quantité suffisante pour de l'ultra. Mais là où vraiment je me concentre sur le personnel, et là où je coupe, ouais, et c'est terminé. Là, cette année, je l'ai pas trop eu. Je fais la Diagonale des Fous en octobre. J'ai ensuite appris à ses proches que j'étais pris pour la Barclay. Et du coup, ça, voilà, j'ai continué. Mais là, clairement, je sais que cette année, pour moi, en tout cas, à partir de fin juin, je coupe des objectifs personnels. Jusqu'à fin d'année qui arrive, quoi. Mon dernier objectif, il est fin juin et c'est tout, quoi. Et j'ai besoin de cet équilibre, moi. Je vais pas devenir un coureur professionnel. C'est pas ce que je veux faire. Hein. Je veux vraiment protéger mon quotidien, couper, comme tu l'as dit. Donc, je pense faire ça plutôt bien. Après, c'est pas facile. Il faut faire des compromis à certains moments de l'année, comme je l'ai fait en janvier-février, comme je vais le faire au mois de mai-juin aussi, là. Mais voilà, je compense après avec le reste de l'année.
Pourquoi tu prépares quelque chose Tu prépares quoi?
La Termino Room à nouveau que j'avais faite l'an dernier, la version française de la Barclay, voilà, en Chartreuse, au-dessus de Grenoble. Voilà, c'est une course qui me plaît énormément parce qu'elle a été créée il y a 6 ans, personne n'a réussi à la terminer. Et il y en a plein qui, voilà, on se demande est-ce qu'elle n'est pas au-delà du raisonnable, est-ce qu'elle n'est pas au-delà des limites. Et elle est cool parce que du coup, on doit tout explorer, on doit découvrir si c'est faisable ou si ça ne l'est pas. Moi, j'ai fait 2 boucles et demie l'an dernier, donc ben, j'ai échoué. Et j'aimerais toujours faire un peu plus et me donner vraiment les moyens de donner du mieux que possible et voir où est-ce qu'on se situe. Et est-ce qu'elle est comme la Barclay, juste à la limite du possible ou juste ben, trop compliquée, quoi. Donc elle me plaît énormément cette course et elle est fin juin.
Ok, j'en profite, tu vois, pour parler un tout petit peu de médiatisation avec toi, parce que c'est un sujet que j'aborde très souvent, tu vois, avec les athlètes olympiques. Ben là, tiens, d'ailleurs, il y a eu un épisode qui a été publié hier matin avec Tess Ledeux. Tu vois qui c'est, Tess Ledeux?
Ouais, je vois, ouais.
Et tu vois, elle, c'était l'enfant prodige du ski freestyle. Je crois qu'elle gagne ses premiers X Games. Désolé, Tess, si je me trompe dans l'âge, mais c'est à 16 ou 17 ans, tu vois, et c'est encore une enfant. Et tu vois, et c'est bah, les sponsors, les tours du monde, la visibilité des X Games. Donc tu vois, tout de suite, une surexposition d'abord aux États-Unis, puis tu vois, en France, qui est arrivé plus discrètement en France. Mais tu vois, on en a beaucoup parlé parce que elle, pour l'enfant, l'adolescente que c'était, ça a fait trop d'un coup, tu vois. Et elle a failli faire un burn-out de ce trop-plein, en fait, de cette surprofessionnalisation où, bah, effectivement, d'un côté, t'as le plaisir et tout, mais, bah, ok, maintenant, faut structurer la saison, faut avoir un préparateur physique, un préparateur mental, ton équipementier, il faut que tu passes, faut que tu passes une demi-journée avec lui tous les mois parce que, pour qu'il comprenne exactement quel type de ski tu veux, il faut faire deux journées médias par mois parce que c'est comme ça et tout. Et en fait, elle a fait perdre, tu as complètement cette passion. Du coup, j'en parle souvent, tu vois, avec les athlètes, ils ont un angle différent. Et toi, bah, c'est différent, tu connais ça sur le tard, tu vois, avec beaucoup de recul, beaucoup de sagesse. Comme tu le dis, t'es un petit peu introverti et t'es posé et tout. Là, bon, ça fait que deux semaines, tu vois, mais comment est-ce que tu l'as vécu, ce passage un peu là? Est-ce que c'est une aubaine? Est-ce que tu te dis, je me force un peu parce que c'est peut-être une opportunité que t'auras peut-être pas deux fois dans ta vie et que t'as envie de découvrir? C'est pour le partager. Comment est-ce que tu l'appréhendes? Parce que c'est pas, j'imagine, c'est pas forcément facile et c'est pas toujours hyper agréable, tu vois. Moi, deux semaines comme ça m'aurait pas plu, tu vois.
Non, c'est sûr. Bon, déjà, vu ce que tu m'as dit, je tiens à rassurer, ils vont rire, hein, Tess le 2, François Dain, tout ça, quand ils vont m'entendre, ils vont rire, ils vont se dire, mais c'est rien ce qu'il vit, quoi. Moi, j'ai juste eu des magazines qui m'ont appelé, fait des articles, quelques podcasts, et ça va pas plus loin, quoi. Enfin, j'ai pas eu de demande de sponsor, c'est des trucs très simples, quand même. Moi, à mon niveau, c'est un truc de fou, mais à leur niveau, ils doivent se dire, mais on a ça tous les jours, même pire, donc ça va, faut relativiser, ouais, quand même.
Tout arrive d'un coup.
Voilà, quoi, c'est ça. Mais faut relativiser, quand même. C'est pas non plus une grosse vague, c'est pas un tsunami non plus, quoi. Par contre, oui, c'est parti.
Les sponsors, petite parenthèse, mais ils sont un peu, ils ont pas le nez creux parce que pour le coup, ça leur aurait fait une belle visibilité, tu vois.
Ouais, après on est dans un monde un peu économique aussi où je le comprends. C'est pas gratuit entre guillemets. Il faut donner de la visibilité, il faut trouver de l'intérêt. Moi, je suis pas quelqu'un forcément qui ait beaucoup de visibilité jusqu'à présent, donc faut voir en fait. Donc bon, peut-être que pour cette démarche-là, voilà. Enfin, ça, je sais pas, mais oui, voilà. Enfin, tout ça pour dire quand même, faut relativiser. C'est pas non plus le tsunami. Et par contre, ben, comment je vis? En fait, ça pourrait paraître un peu contradictoire, mais moi, je suis un peu, introverti, ben, discret entre guillemets sur ces sujets-là. Par contre, ça me fait énormément plaisir de partager ça, partager ma passion en fait à ceux qui pourraient l'entendre et à ceux qui pourraient avoir un intérêt de l'écouter en fait. Et je suis dans le partage pour mes proches, pour les gens que je connais moins aussi, qui m'ont fait comprendre leur intérêt lors de la course. Moi, ça me fait énormément plaisir. J'ai vu énormément de personnes qui m'ont témoigné leur intérêt pour la course, qu'ils ont vécu des émotions, etc. Et ça, c'est juste génial de partager ça. Donc, naturellement, ça me fait plaisir de partager ça. Je prends pas sur moi. C'est pas quelque chose que je trouve compliqué. Je suis sans filtre. J'ai aucun souci avec ça. C'est pas quelque chose que je recherche juste activement, en fait. Je cherche pas la visibilité. Par contre, quand le partage il est là, quand ça vient, je trouve ça génial. Je bosse sur d'autres trucs en parallèle, sur pourquoi pas un film un peu plus long pour réexpliquer un peu mon cursus ou même un livre en fait pour expliquer un peu ma démarche, etc. Tout ça dans le but du partage en fait et pas forcément de gagner en visibilité. Donc j'ai aucun souci avec ça, c'est assez naturel. Comme tu dis, à un moment donné, au bout de 10 jours, 2 semaines, de raconter les mêmes histoires, c'est assez, c'est assez bizarre quoi, de m'entendre à chaque fois raconter les mêmes trucs. Et c'est pour ça que c'est super cool avec toi de parler un peu des sujets annexes. Donc ça c'est chouette, donc ça c'est un peu la partie un peu rébarbative où je raconte à chaque fois les mêmes récits, donc ça j'évite un peu de raconter les mêmes trucs, mais sinon c'est génial, j'adore partager, voilà, je me plains pas de ces derniers jours, et comme je disais à nouveau, il y en a certains qui vont rire, j'ai pas un quotidien d'athlète de haut niveau, donc ça va.
Ouais, ouais, non, mais c'est vrai que, tu vois, moi, en plus, je suis dans le milieu, à la fois podcast, à la fois ultra, j'ai beaucoup suivi, et je me dis, waouh, il est partout.
Ouais, tu veux dire,
ça peut être fatigant, crevant, ou...
J'ai condensé ça sur 10 jours, et après, j'ai coupé, après, j'ai commencé un peu à me recentrer sur mon métier, sur ma profession, sur mon temps libre, donc là, ça fait depuis une semaine que c'est déjà très calme.
Ouais, bien sûr. Ça me fait penser aussi, tu vois, un peu à ce retour du Vendée Globe que certains marins font, où tu vois, ils ont passé 3 mois sur un bateau tout seul, manque de sommeil, avec des hallucinations, avec tous les problèmes qu'ils peuvent avoir, tu vois, et un peu le spleen du marin, tu vois, parce que t'es seul au milieu de l'océan, y en a qui parlent tout seul aux mouettes, enfin, tu vois, il faut quand même se le dire.
Ouais.
Maintenant, c'est moins vrai parce que tu sais, ils ont WhatsApp, ils se font des notes vocales, ils communiquent beaucoup plus avec la Terre, ils arrivent à téléphoner. Mais à l'époque c'était un peu comme ça, et puis tu sais, ils mettent le pied sur terre et là boum, il y a 150 journalistes qui arrivent, et pendant 48 heures c'est hyper intense quoi. Là pour le coup, je pense que c'est les champions des médias, et
ouais.
La transition c'est encore plus violent quoi.
C'est vrai, le choc, ouais, ça doit être impressionnant hein.
Mais comment est-ce qu'on récupère d'une course comme ça qui... Donc toi, tu l'as fait en 58 heures, c'est ça?
Ouais, c'est ça. 58 heures, 23 minutes. Ouais.
58 heures, 23. Et tu sais combien de secondes?
Non, je sais pas. Les minutes sont importantes. Elles comptent les minutes pour pas arriver à 59 heures, 59 minutes. Enfin, 60 heures surtout, mais les secondes, je sais pas.
Ouais. Donc 58 heures, 23. Tu saurais mesurer le temps durant lequel tu ne marches pas ou tu n'es pas debout?
Donc je me suis jamais assis en course. Sauf au camp.
Ouais, sauf au camp, ok.
Donc le camp, c'est facile, c'est assez chronométré. Donc c'était pile poil 10 minutes à chaque fois. 10 minutes la première, 20 la seconde, 30 minutes la troisième, ça fait 50. Et 10 minutes la quatrième, parce qu'il y a 4 pauses pour les 5 books, ce qui fait 1 heure. Donc j'avais 1 heure de pause. Je prenais pas d'autres pauses, à part le temps d'arracher la page du livre, mais j'étais debout à chaque fois. Donc dans ces 1 heure de pause à chaque fois, je pense qu'à la moitié du temps, j'étais assis, le temps d'être debout, de faire les transitions, etc. Donc j'ai dû me poser, ouais, c'est ça, entre 30 et 40 minutes. Je sais exactement que j'ai fait une sieste de 18 minutes, en l'occurrence, qui était entre la boucle 3 et la boucle 4.
Elle était nécessaire, cette sieste?
Elle était cruciale, elle était nécessaire, ouais, et cruciale, et même ça m'a suffi, mais j'ai quand même eu des soucis dans la deuxième nuit, parce qu'à un moment donné, après 2 nuits sans sommeil, forcément, on rencontre des difficultés, mais si j'avais pas fait cette sieste, j'aurais eu beaucoup plus de problèmes. Donc elle était cruciale, et c'est, pour le coup, c'était la seule de la course. Donc voilà, je sais que j'étais 18 minutes allongé sur toute la course. Et après, voilà, les temps de transition que je t'ai cité, ouais.
Bon, grosso modo, t'as passé 57 heures à marcher, quoi. Comment est-ce qu'on récupère, tu vois, d'une course aussi longue, aussi intense? Surtout, c'est pas du plat, hein, tu fais pas le chemin de Compostelle. Quoique, en plus, il y a des passages où ça grimpe un peu. Mais là, c'est que du dénivelé, très, très, très pentu. Comment est-ce qu'on récupère, ouais? Comment est-ce que t'as récupéré, toi? Parce qu'il n'y a pas de rapport là-dessus.
Non, c'est vrai, c'est vrai. Après, moi, j'ai eu chaque fois des récupérations un peu différentes en fonction de mes différents projets. Là, j'ai une récupération plutôt bonne, je dirais, parce qu'en fait, c'était souvent en relatif, en comparaison de ma préparation pour ces projets-là. Il y a eu des projets, le John Muir à nouveau, les deux premiers John Muir où j'étais pas prêt comparé au défi, où là j'ai eu des explosions majestueuses, où là j'ai mis du temps énorme à récupérer.
C'est à cause de quoi tes explosions, tu saurais dire?
La première, c'est parce que j'étais pas prêt physiquement et parce que j'étais pas prêt sur l'alimentation. Je savais pas comment me nourrir, donc je m'alimentais moins. Donc du coup, mes muscles étaient en train de dépérir, entre guillemets, je les cannibalisais, quoi. Je cassais de la fibre et je la réparais pas. Et j'étais pas prêt, donc c'était une combinaison de tout ça qui ont fait que j'ai mis plusieurs semaines à récupérer.
Ouais, t'as dû avoir des crises de fatigue énormes, ouais.
J'avais même le sommeil, je faisais des siestes entre midi et deux pendant 2 semaines, et le soir je m'écroulais dans le lit à chaque fois. Après, c'est surtout mentalement aussi où j'ai eu pas mal de soucis. C'est une anecdote marrante aussi, ouais, quand j'avais fait la traversée des Pyrénées, en fait, j'avais une routine où entre minuit et 3 heures, je dormais pendant 12 jours. Et du coup, après, pendant presque 2 semaines, c'est resté aussi. En fait, je m'étais longtemps à récupérer, où en fait, toutes les nuits, je me réveillais à 3 heures du matin, en panique, comme si j'étais sur le sentier, en fait, où j'avais créé une sorte de mécanique, de routine, en fait, qui a mis du temps à partir. Donc ça, c'est la récupération mentale, en fait, le fait de savoir que le défi s'est terminé, que c'est derrière soi, et qu'on a fait le vide, en fait, et qu'on passe à autre chose. Donc ça prend un peu de temps aussi.
L'adrénaline qui met du temps à redescendre, le corps, ouais, qui se règle, ouais.
Tout à fait, tout à fait. Là, en l'occurrence, pour la course, là, j'ai récupéré assez facilement physiquement parce que j'ai l'impression d'avoir été énormément prêt, d'avoir fait beaucoup dénivelé et une grosse préparation physique qui ont fait que la course s'est bien déroulée, que j'ai jamais eu de moment trop faible dans la course, qui ont fait qu'au bout de 3-4 jours, je me sentais bien déjà. Donc bon, après, j'ai fait une course la semaine dernière où je me suis fait une contracture au mollet au bout de 20 minutes. Donc je pense que c'était un signe quand même que j'ai pas récupéré à 100%. Mais au final, ça s'est plutôt bien passé par rapport à d'autres expériences. Donc ça dépend de mon niveau de préparation, à ma gestion de course, hein, qui là a été plutôt bien gérée entre l'alimentation et tout le reste et l'allure. Donc j'ai réussi à bien m'en sortir, qui ont fait que ça a amélioré la récupération par la suite. Hein.
Ok, moi t'es vraiment un extraterrien, quoi, parce que autant, tu vois, faire la course, tu vois, fine, mais récupérer en quelques jours, c'est encore plus impressionnant, je trouve.
Ouais, je me sentais prêt, et après, ouais, c'était une bonne surprise aussi, c'est la nature des choses, la continuité de mon investissement et de ma préparation qui ont fait que ça s'est bien passé. Hein.
Je voulais te demander, du coup, sur cette partie sommeil, tu vois, justement, du coup, les 58 heures, donc ça nécessite de faire 2 nuits blanches, grosso modo. Est-ce que ça se travaille, vraiment, le fait de pas dormir? Est-ce que tu t'es entraîné, je sais pas, à partir, justement, dans les Pyrénées, et tu te dis ok, ce soir je dors pas et je vais courir X kilomètres, tu vois.
Pas personnellement, je crois qu'il y en a qui le font. Moi j'ai fait un événement de 24 heures fin janvier où là on n'a pas dormi pendant 24 heures et c'était un bon entraînement aussi de faire une nuit entière après une journée, et c'est tout le temps compliqué et le fait de se rappeler un peu de ça, ça aide. Donc j'avais fait que ça. Après, les expériences passées, je trouve, sont très importantes. J'ai eu de gros problèmes de nuit lors de mes courses objectifs précédentes, où là j'ai appris en fait. À nouveau, je me réfère beaucoup au John Muir Trail parce que c'est là où j'ai beaucoup appris. Mais je me rappellerai toujours de cette troisième nuit lors de ma seconde tentative, où là j'ai perdu le fil en fait. J'ai cru que j'allais améliorer la marque, que j'allais améliorer le record. J'étais en avance. Et en fait, un problème de manque de lucidité, de surconfiance, d'hallucination qui me venait en même temps, en fait que j'ai perdu pied, je me suis plus alimenté. J'étais plus concentré, j'étais hors de ma course. Donc voilà, ça m'a fait perdre pied, ça fait que j'ai échoué. Donc en fait, il faut tout le temps s'accrocher non-stop, se reconcentrer et vraiment à 100% chaque seconde, chaque minute de la course pour être sûr que ce manque de lucidité, on l'adresse de suite par des actions concrètes. Soit on se pose, on s'alimente, soit on se prend un peu de caféine, soit, je sais pas, soit voilà, on fait en sorte qu'on a froid, on enlève un truc et on a un peu plus froid, donc on est un peu plus stimulé par exemple. Ça m'est arrivé de faire ça aussi. Donc ce manque de lucidité, il faut le percevoir, voir qu'on s'alimente moins, qu'on voit flou, qu'on a des voix un peu dans la tête, hein, et l'adresser de suite dès que possible. Donc c'est une mécanique que j'ai eue avec le temps, avec les expériences passées, où là je me suis rappelé, ah, je suis en train de revivre un peu la situation que j'ai vécue il y a 3 ans, donc là c'est le moment de faire un ajustement et de plus foncer tête baissée comme je l'ai déjà fait, quoi.
Ouais, bien sûr. Mais tu vois, je te posais la question parce que, effectivement, tu vois, t'as fait pas mal de courses et de défis comme ça. Ça remonte déjà un petit moment. Et puis, tu te le fais 4-5 fois, tu vois. Et c'est pas une répétition. T'aurais pu te le faire 30-40 fois. Ou peut-être certains le font, tu vois. Mais
après, je suis habité par le défi aussi. Où il y a la finalité du défi qui fait que mentalement, je me pose plus de questions. Je sais que je vais avancer dans la nuit. C'est une question de gestion après. De gestion de voilà, si je m'endors, ben, qu'est-ce que je fais? Soit je prends un peu plus de caféine, soit je fais vraiment une micro-sieste. Hein. Ouais. J'aime bien les micro-siestes aussi de 10-15 minutes, elles sont très réparatrices, elles sont très courtes. On pourrait croire que ça remplace jamais une nuit de 8 ou 9 heures, ce qui est le cas, mais ça fait quand même une sorte de reset un peu. Ouais. Donc ça, c'est top. Donc des fois, j'en mets de temps en temps. Ouais. Là, en l'occurrence, je pensais pas que j'allais en mettre qu'une seule lors de la course, mais je pensais en mettre un peu plus.
Ok.
Et j'ai pas ressenti le besoin. Donc ça, c'est des choses que j'improvise au fur et à mesure, en fait.
Ouais, tu te connais bien quand même. Ouais.
Ouais. Mais voilà, je savais clairement si j'allais avoir des soucis de sommeil qui allaient être critiques, hein, j'allais me poser et faire 10-15 minutes, 20 grammes maximum de sieste, hein, où là, j'essaie de faire un reset pour repartir. Et là, en l'occurrence, ça ne m'est pas arrivé. Donc, j'ai réussi à gérer plus ou moins bien avec l'alimentation, mon manque de sommeil. Et ça s'est bien passé. Mais des fois, j'ai besoin de me poser un peu plus.
Ouais. Ce qui m'a marqué chez toi, je te trouve hyper humble, mais je trouve que tu dégages une sérénité et une confiance. Pas forcément une confiance en soi, mais en tout cas, il n'y a pas de doute. Tu es dans ton truc et j'ai l'impression que tu ne doutes pas, tu vois. La question que je voulais te poser, c'est est-ce qu'il y a eu des moments où, durant cette course, où j'imagine, tu étais un peu dans ton état de flow quand même, tu vois, tu l'as dit, tu étais en forme parfaite, tu étais hyper bien préparé et tout. Est-ce qu'il y a des moments où tu as douté?
Il y en a plein de moments où j'ai douté, du début jusqu'à la fin. Le début, c'est est-ce qu'on va faire la première boucle dans les temps? Est-ce que je ne vais pas mettre 10 ou 11 heures plutôt que 9 heures espérées? On ne sait pas. En fait, c'est un pas après l'autre à chaque fois. Mais j'ai eu des moments de doute à chaque fois. Quand j'ai quitté Guillaume lors de la deuxième, je commençais à voir les barrières horaires se rapprocher. Je me suis dit, ça va être compliqué. Et ça, tout le temps. Lors de la troisième boucle, lorsque j'étais avec Jared Campbell, triple finisher, qui venait pour son quatrième finish, j'étais avec lui et j'y demande, t'en penses quoi pour 5 boucles? Il me dit, c'est très compliqué, on n'est pas en avance, quoi. Donc ça fait douter, forcément. Si lui me dit ça, moi, c'est encore pire, quoi. Donc je doute tout le temps, en fait. Je doute quand je dois partir en sens anti-horaire sur la cinquième. Je me dis, je sais que je vais faire des erreurs d'orientation. Comment ça va être? Est-ce que ce sera des grosses erreurs ou pas, quoi? Mais je savais que j'allais en faire. Et au final, ça s'est trouvé que c'était des petites erreurs de 15-20 minutes à chaque fois, pas d'une heure ou deux, quoi. Mais c'est inquiétant. Donc pendant la cinquième, je doutais aussi, jusqu'à arriver vers la fin où là, c'était des sections que je connaissais mieux. Et là, je me suis dit, il n'y a plus trop de gros doutes, hein, mais reste concentré sur ton objectif et ne te trompe pas au dernier virage, comme c'est arrivé à Gary. Donc si, des moments de doute, il y en a eu tout le temps. Par contre, en fait, comme tu dis, je me connais bien, je me lance sur des projets où j'ai un gros taux d'échec à chaque fois. J'ai vécu une année 2021 terrible, hein, où j'ai réussi à rien faire, hein. tout ce dont je me suis lancé, le GR20 en Corse, le GR5 dans les Alpes et d'autres ultras, j'ai tout abandonné en fait. Je me rappelle, je m'étais acheté un symbole à, cette année-là, c'était une petite aile, un petit bijou là, c'était une petite aile de, voilà, d'oiseau entre guillemets que moi je représentais comme une aile de phénix en fait. Et je voulais que ce petit bijou, il représente mon année 2021, où c'était une année d'échec en fait. Et je me suis dit, tu vas rebondir sur ça, tu vas essayer d'apprendre un peu ce qui t'a fait échouer en fait, ben, trop de chaleur au GR20 et un manque de préparation. Le GR5, j'étais pas habité par le défi en fait, mentalement, j'étais pas prêt à souffrir autant pour la finalité. Donc plein de petits trucs qui ont fait que je voulais rebondir sur ça et que j'accepte l'échec en fait. J'accepte l'échec parce que je sais que dans mon... Voilà, quand ça réussit, c'est magnifique, ça me fait des souvenirs et vivre des émotions incroyables. Le John Muir Trail, j'ai échoué deux fois, mais la troisième fois, c'était incroyable. La traversée des Pyrénées aussi, la Baldi Marathon aussi, et là, la Barclay aussi. Et j'étais prêt à échouer, j'avais aucun souci avec ça en fait. Je savais que je pouvais ne pas être finisher cette année, que j'allais bien vivre avec ça, malgré la déception, hein. Faut pas relativiser. Clairement, je me suis préparé pour me donner les meilleures chances, en espérant ne pas échouer. Mais je me suis dit, si t'échoues, ça sera juste une étape de plus dans ton processus en fait. Et là, je sais à l'heure actuelle que dans mes futurs projets, mon taux de réussite, il va pas forcément augmenter en fait. Je sais que je m'attends à échouer peut-être en juin prochain ou pas. Et j'aime bien cette incertitude. J'aime bien me lancer dans des projets où je sais que je vais échouer fort probablement. Donc en fait, je suis confiant de ça parce que je donne plus trop d'importance sur l'échec ou le succès. L'échec va me faire apprendre et je m'attends à échouer. Et le succès va faire en sorte que je vais vivre des émotions incroyables. Donc je suis assez serein par rapport à ça. Je ne me mets pas de pression supplémentaire à me dire « ça y est, je vais être attendu en juin, on va attendre à ce que je termine ». Ben non, en fait, je vais tout donner. Et si j'échoue, c'est qu'il y aura quelque chose qui aura fait que j'aurais échoué. Soit j'aurais été trop faible mentalement, soit la météo, soit l'alimentation, manque de lucidité. On verra ce qui se passe, mais voilà, je suis dans cette démarche-là, quoi.
Ok, c'est hyper intéressant, cette philosophie de l'échec. J'ai l'impression que je cherche le mot, mais peut-être que t'embrasses l'échec, tu vois, ou t'en fais ton ami, en fait. Ok, mais je le voyais pas comme ça.
Il y en a qui disent d'ailleurs à la Barclay, les vrais vainqueurs, c'est ceux qui finissent pas. Parce que c'est eux qui en apprennent plus sur eux-mêmes. Parce que les finishers, ils n'apprennent pas forcément grand-chose parce qu'ils ont fini et tout s'est bien déroulé. Du coup, il y en a qui disent que les vrais vainqueurs, c'est ceux qui échouent à la Barclay. Parce que du coup, eux, ils ont une opportunité d'apprendre et de devenir meilleurs. Alors que quand on finit, mais moi, c'était un peu ça à l'occurrence. J'ai pas appris grand-chose sur cette course parce que tout s'est bien déroulé pour moi. Et je trouve que c'est beau de se dire, voilà, le vrai vainqueur, c'est celui qui échoue parce qu'il a vraiment l'opportunité d'en apprendre plus et d'améliorer ses défauts, alors qu'il a d'autres qualités à côté. Mais du coup, voilà, ces défauts-là, il les a identifiés et il peut faire en sorte de rebondir sur ça, quoi.
Ouais, bien sûr, on progresse beaucoup plus grâce aux échecs et aux tentatives non réussies, mais c'est vrai. Après, t'as quand même appris à réunir tous les ingrédients pour y arriver, quoi. Donc, une question que je me posais aussi sur le parcours, et après j'ai d'autres petites questions, mais t'as le droit de venir faire du repérage? Tu le connaissais, le parcours? Alors, il y a des vidéos, il y a des reportages, il y a effectivement il y a la cartographie, il y a les rapports de course, tu l'as mentionné, mais tu as le droit de venir pour repérer le terrain et d'aller voir comment ça va se profiler.
Donc ça a changé au fur et à mesure des années en fait. Il y a 21 ans, 22 ans, il y a eu un gros problème avec cette course et le parc, parce que c'est un parc, c'est un state park aux États-Unis, c'est un parc préservé en fait. Ils voulaient arrêter la course parce qu'il y avait des gens qui commençaient à venir faire du hors-sentier, etc. Ça ramenait des gens, en fait, et ça faisait que ça préservait moins le parc, en fait.
Ouais.
Avant...
C'est des gens qui se préparaient, en fait, voilà. Qui voulaient la préparer.
Exactement, des gens qui voulaient se préparer. Après, pendant la course, forcément, ils faisaient du hors-sentier dans le parc aussi, ce qui n'était pas autorisé. Donc avant, les gens allaient reconnaître le parcours en faisant du hors-sentier, et voilà, en faisant ça, justement. Ce qui a maintenant changé, maintenant, c'est interdit de faire de la reconnaissance hors-sentier. Le hors-sentier, ça correspond quand même à 70-80% de la course. Donc,
autant dire tout.
Voilà, c'est ça. Donc on ne peut pas trop repérer la course. Par contre, il y a énormément d'informations qu'on peut récupérer par les rapports de course. On sait où la course, elle est. On peut repérer tous les sentiers du parc, tous les sentiers tracés qui sont sur les cartes officielles, on peut les repérer. Et en fait... La Barclay représente quand même la plupart du trail périmètre du parc, avec des sections qui sont rajoutées hors sentier. Donc en fait, on peut faire le périmètre et les sections sentier pour avoir une bonne idée de là où on va, où est-ce qu'on va tourner dans le hors sentier. À cet arbre-là particulier, on tourne dans la pente à gauche. Donc on n'y va pas dans la pente, mais on sait déjà où c'est qu'on doit tourner et où est-ce qu'on doit atterrir à peu près.
Ok, d'accord. Ouais.
On sait le parc. Sur internet, en fait, on peut regarder la carte, s'imprégner des rivières, où est-ce que ça coule, des sentiers, où est-ce qu'ils sont les sommets, savoir vraiment où est-ce que sont tous les petites features, tous les petits points clés du parc, savoir les situer dans sa tête, en fait, pour le jour de la course, lorsqu'on fait du hors-sentier, bah, pouvoir se situer si on est perdu, en fait. Si on croise une rivière, en fait, savoir laquelle c'est. Si on croise un sentier, savoir lequel c'est, etc. Donc, il y a une démarche en ligne qui est énorme, qu'on peut faire, sans connaître le parcours de la course. Et ensuite, c'est sur le terrain. Moi, j'ai passé une semaine de repérage, entre guillemets, avec Guillaume Calmette, qui est mon pote et autre Français qui a fait la course cette année. Lui, il avait fait la course 3 fois. Donc, en fait, on était sur les sentiers. Et à chaque fois, il me montrait, il me disait, là, tu vois, à ce rocher, il va falloir tourner à gauche. Donc, on regardait, on analysait. OK, si je tombe plus loin là-bas, ça ressemble à ça. Donc, je sais que je suis un peu trop loin nord. Avant aussi, je suis un peu trop loin sud, donc ça ressemble à ça. Donc, c'est cette démarche-là. Et après, il y a tout le hors-sentier qu'on ne peut pas faire, forcément.
Ouais, OK. Ouais, c'est passionnant, ouais, de pouvoir y passer des heures et tout. Mais il faut une super mémoire et faire beaucoup de visualisation, non, du coup?
Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Bah, répéter. Hein. La carte, il y a ma chérie, Lucie, elle me disait, mais tu ne l'as pas déjà vue hier? Tu n'as pas déjà fait la même chose? Ouais, mais c'est répéter, en fait. C'est vraiment s'imprégner du parc, des rivières, des sentiers. Et voilà, comme tu dis, mémoriser, quoi. Et nous, on a sorti la carte de temps en temps avec Guillaume et avec les autres quand on était perdus pour analyser où est-ce qu'on est, le terrain. Mais des fois, on n'a pas besoin de sortir la carte parce qu'on sait où est-ce qu'on est. Et le but, c'est de savoir naturellement, comme tu dis, avec la mémoire, de savoir exactement où est-ce qu'on est tout le temps, quoi.
Ouais. Ok. Moi, j'adore, tu vois, tous les travaux de visualisation. Je fais beaucoup d'exercices de visualisation et tout. Ça me fait vraiment progresser, tu vois. Et j'imagine que ouais, c'est un travail qui est très similaire et dans lequel tu essayes de te repérer, quoi.
Moi, j'adore la visualisation sur les scénarios de course, en fait, ce qui peut se passer. Ça, je fais ça beaucoup naturellement, en fait. Mais à m'attendre à avoir une météo dégueulasse, il va faire que pleuvoir non-stop. Au moins, quand il pleut non-stop, ben, c'est pas une surprise. On est là pour ça, quoi. Plutôt que ce soit une variable, un paramètre qui fait qu'on va abandonner la course. Ah, il pleut, je pensais qu'il allait faire soleil, du coup non, on quitte, quoi. Donc je visualise beaucoup les conditions, le fait d'être moins bien, de m'alimenter en conséquence, le fait de, voilà, de manquer de sommeil, le fait de que la course soit trop compliquée, plus compliquée que ce que je pensais sur le hors-sentier. Je me rendais pas compte du hors-sentier. Voilà, je m'attendais à ce qu'il y ait des roses partout, plus que ce qu'il allait en avoir. Au moins, j'allais pas être surpris. Et comme tu dis, c'est un travail de visualisation qui est important. Au moins, il y a pas de surprise. Et tout ce qui arrive est un peu prévu d'avance, même si des fois, on peut pas forcément prévoir. Mais au moins, ce ne sont plus des surprises et c'est des choses qu'on avait déjà anticipées et auxquelles il faut juste faire des actions pour corriger, quoi.
Et ça, tu l'as fait tout seul, naturellement, tout ce travail-là?
Ouais, je pense que c'est venu assez naturellement, je pense, ouais.
T'es tellement à fond dans le projet que ça se fait.
Ouais, c'est ça, à travers le vécu des autres coureurs aussi, de lire leurs rapports de course, voir ce qu'ils ont vécu et de se dire, je risque de vivre les mêmes choses, en fait, et naturellement, on se projette. J'ai eu au téléphone, là, Thierry Corbarieux, hier, un ami à moi qui est un aventurier toulousain, qui vient de finir l'Iditarod 1000 en Alaska. C'est un projet énorme sur 25 jours, en tirant son traîneau. Et il a un projet avec son fils, en fait, et qui partagera publiquement quand il le souhaitera. Il m'a dit à mon fils, j'ai fait voir des films, en fait, pour qu'il se projette et pour qu'il voit ce qu'il va vivre aussi de son côté, quoi. Et il m'a dit, quand son fils l'a vu, il lui a dit, papa, t'aurais pas dû me montrer ces films-là, quoi. Et alors qu'il m'a dit, si, j'ai bien fait de lui montrer, il faut qu'il se projette et qu'il voit ce qu'il va vivre. Au moins, quand il va le vivre, il va pas abandonner. Et quand Thierry m'a dit ça, ça m'a parlé. Je me suis dit, oui, il faut visualiser, il faut savoir dans quoi on se lance. Et son fils, il va vivre une aventure extraordinaire, mais il doit aussi la visualiser de son côté, quoi.
Ah ouais, c'est clair. Après, pour un enfant, j'imagine, des fois, ça peut être un peu stressant, mais effectivement, il faut...
C'est un jeune adulte, mais...
Il faut toujours se projeter, ça aide pour tout, quoi. En fait, plus, tu as même, tu vois, cette interview, je l'ai un peu visualisée, tu vois, j'avais la pièce, j'avais déjà écouté des podcasts de toi, je me suis posé 10 minutes, j'ai imaginé un peu, tu vois, mais c'est un outil tellement puissant. T'as mentionné Guillaume, tu vois, là, récemment, dans la question précédente. À quel moment lui, il s'arrête?
Il s'arrête. Moi, j'ai découvert qu'il s'arrêtait quand j'étais sur ma transition 3-4 ans.
Tour 3-4, ok.
Ouais, donc où je finissais ma troisième. Et lui, en l'occurrence, il s'est arrêté au début de sa troisième. Okay. Il voyait que sur les montées, il n'y arrivait plus. Il avait trop mal au tendon d'Achille, en fait. Donc, il a fait demi-tour parce qu'il n'avait plus du tout l'allure pour entrer dans les clous sur la troisième boucle. Donc, voilà, juste avant de... Voilà, sur sa boucle qui aurait pu faire une fun run pour lui. Mais il avait trop de souffrance sur son tendon d'Achille, il m'avait dit, ouais.
Ok. C'est quoi l'effet sur toi? Parce que tu l'as dit, c'est un pote, vous avez partagé une partie de la prépa, il t'a beaucoup accompagné sur cette partie visualisation et cartographie, puis j'imagine sur beaucoup d'autres choses, vous avez dû tout partager. C'est quoi l'effet sur toi quand t'apprends que ton pote il a abandonné?
Moi, terrible, parce que je suis tellement frustré pour lui. Il mérite plus que moi de finir cette course. C'est la quatrième fois qu'il a fait, donc moi j'espérais vraiment qu'on finisse tous les deux cette année. C'était vraiment mon objectif de rêve, entre guillemets. Donc déjà, là, ça fait une partie de mon objectif qui va pas se passer, quoi. Donc ça, c'est frustrant. Après, je le connais, Guillaume, il va toujours de l'avant. il est pas fataliste, quoi. Donc clairement, c'est une déception pour lui, je pense, parce que c'était pas ce qu'il avait en tête. Il voulait finir, on s'est donné les moyens tous les deux de finir. Mais il va de l'avant, donc c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, il va aller de l'avant, j'y fais confiance. De toute façon, c'est une machine, voilà, place à la suite, quoi. Mais clairement, oui, quand j'ai appris sur la troisième qu'il avait pas fini, enfin qu'il avait fait demi-tour, j'étais dégoûté parce que c'est mon pote, parce que je voulais qu'il finisse lui aussi. Mais c'est comme ça, c'est l'ultra, il le sait, il nous le dira mieux que moi, je pense. Il va de l'avant et place à la suite, quoi. Et moi, quand j'étais en course, ben, j'étais dégoûté et vite, j'ai dû me forcer à me recentrer sur ma transition, en fait. J'avais ma transition critique entre ma troisième boucle et quatrième boucle, hein, et je devais exécuter, je devais m'alimenter, je devais dormir. Donc voilà, c'était particulier, j'ai vécu un peu d'émotion là quand je suis reparti sur ma boucle, un mélange de tout ça, de frustration, de gestion, de voilà.
Bien sûr, bien sûr.
J'espère que l'histoire n'est pas terminée le concernant, mais c'est sûr que c'était pas facile. Ce qui était pas facile, c'était de le laisser sur la deuxième boucle. Moi, je me voyais faire quatre boucles avec lui, et là, je me suis dit, ben, partir devant seul, c'est clairement un choix un peu égoïste, c'est-à-dire se recentrer sur sa course à soi, son objectif personnel, plutôt que continuer en binôme. Donc là, c'était dur de faire le choix du partage ou le choix de l'objectif personnel. Et là, c'était très dur, quoi. Mais bon, et il fallait que je fasse en sorte de ne pas avoir de regrets pour un projet qui me tenait à cœur depuis 6 ans et de faire les choix qui faisaient en sorte que quand j'allais rentrer en France et y repenser avec le recul, me dire « t'aurais dû faire ça, t'aurais dû faire les choses différemment ». Donc ça a été dur. Mais je voulais me donner les moyens de ne pas avoir de regrets. Donc, ouais. Donc voilà.
Ça reste un sport individuel et ça peut te saboter ta course, tu vois, d'être pas à ton rythme et d'avoir quelqu'un à gérer et te laisser un peu influencer, tu vois, malheureusement.
Ouais, bon, Guillaume, j'avais pas du tout à le gérer, mais en fait, c'est qu'on était dans une. Voilà, on était un binôme, en fait. Et naturellement, à la seconde boucle, on ralentissait et on se rapprochait des barrières horaires qui faisaient que notre binôme devenait. Ben, ça devenait dangereux pour nous deux, en fait. On risquait de. Voilà, aucun de nous deux finir, quoi. Donc là, j'ai pris le choix de partir devant pour moi me rassurer que j'allais rentrer dans la barrière horaire que nous on s'était imposé le plus proche possible en tout cas et éviter ce genre de risque, quoi.
Ouais, ok.
Mais lui après je me faisais pas de soucis pour lui là. Enfin, moi j'ai rien appris sur la course, c'est plutôt l'inverse, quoi. Lui il était totalement autonome et j'y faisais confiance et après il s'est trouvé qu'il était moins bien sur la troisième, mais ça c'est pas de chance, quoi. Et voilà, quoi.
Ouais. Et puis il reviendra, c'est sûr et certain. À quel moment toi tu réalises que c'est fait?
Que c'est fait au dernier virage quand je rejoins le sentier, vraiment, parce que à nouveau hein, je reste concentré, je me rappelle de l'historique des courses. Gary il aurait pu croire que c'était fait au milieu de sa cinquième, et ben c'est, au final il s'est trompé au dernier virage et c'était pas fait, quoi. Mais je pensais vraiment à ça sur la dernière descente, je me suis dit reste concentré, quoi, et ça sera fait quand tu seras vraiment en bas, quoi. Par contre je me suis rendu compte que c'était faisable longtemps avant, quand j'ai fini ma quatrième et que je transitionne sur la cinquième, là je me dis t'as le temps, ça devrait le faire. Mais du coup, c'est particulier parce qu'il faut rester concentré, il faut chasser toutes les émotions, ne pas crier victoire trop tôt, comme je l'ai fait lors de mon second John Muir Trail, où là j'ai perdu le fil. Donc je me suis jamais dit c'est fait, je me suis tout le temps dit vers le prochain livre, vers la prochaine section, restons concentrés. Et là je me suis dit c'est fait, là j'ai laissé exploser ma joie et je me suis vraiment libéré au dernier virage quand j'étais sur le sentier et quand je voyais les lumières au camp qui étaient devant moi, ouais. Là c'était bon.
Ça s'est traduit comment? C'est des larmes, c'est des cris, c'est... Tu penses à quoi à ce moment-là?
Ouais, c'est particulier, mais je pensais beaucoup
c'est
à...
C'est personnel, mais bien sûr.
Ouais, non, c'est... Voilà, c'est naturel, je pensais à Lucille qui n'était pas là et qui me... J'avais son nez rouge sur moi, que je serrais fort de temps en temps, en fait, c'était ma force à distance. Je pensais à elle, je pensais à mes proches qui étaient en France aussi, qui me suivaient, à mes amis, à tous ceux qui me suivaient en fait et qui n'étaient pas là. À ceux qui étaient au camp, qui m'attendaient. Ils étaient dans l'incertitude aussi de savoir quand j'allais arriver. Et je faisais mon fil de mon aventure de mes 6 dernières années. Je voyais que j'étais en train de réaliser mon rêve en fait. J'ai pas éclaté en sanglots parce que j'avais du mal à réaliser. C'est difficile de réaliser. Toujours à l'heure actuelle, j'ai l'impression que c'était une sorte de rêve en fait. Ça s'est tellement passé vite au final avec le recul. Que c'était particulier, j'ai pas éclaté en sanglots, mais j'ai vécu des frissons, des émotions incroyables, où oui, j'ai pleuré, j'ai vécu voilà, des moments uniques dont je me rappellerai toute ma vie, des mots échangés avec les gens sur place, avec Laz, avec Guillaume, avec, voilà, c'était, avec Lucille au téléphone, c'était juste incroyable. Donc c'était un mélange d'émotions de ce genre. Ouais.
Ah ok, mais je peux le comprendre, tu vois, en plus c'est hyper dur à décrire, tu vois, parce que tellement de choses qui doivent te passer par la tête à ce moment-là. Je me suis quand même demandé... Tu vois, toutes ces courses, ces événements qui sont, comme on l'a dit, un peu roots et avec un très minimaliste dans l'organisation. comment tu reviens à la vie normale, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, ok, tu passes la ligne d'arrivée, on te dit, c'est bon, l'as te tape dans le dos et te dit, bien joué, mec, welcome in the family, quoi, en gros. Mais t'es en pleine forêt, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un camion qui vient vous chercher, on vient vous, il y a un hélico. Comment tu fais pour rentrer chez toi, quoi? Ça paraît pas long, ce moment-là, justement, où t'es en redescente des émotions, tu réalises pas, tu vois, et... Il faut revenir à Toulouse, mon grand.
Ouais, ben c'est particulier. Ben nous, on était une petite communauté là-bas. En fait, on était des copains avec Laz qui nous donne un défi, un peu comme si on allait chasser les œufs de Pâques là. Dernièrement, ça peut parler, quoi. Et on est entre nous, quoi. On s'amuse et il y a pas beaucoup de monde, en fait. Il y a quelques médias forcément et c'est tout, pas plus, quoi. Et on réussit à ramener le gros œuf de Pâques à la maison à la fin, qui est le finish de la Barclay. Donc c'est génial, on est content. Et moi, le soir, en fait,
les 40 coureurs sont encore là. Sur le camp, il reste sur le camp.
Beaucoup de coureurs, pas tous. Il y en a certains qui sont déjà partis, forcément. Donc il y a la moitié à peu près des coureurs, peut-être les assistants de ces coureurs-là, quelques médias. Donc il y a peut-être, je sais pas, ouais, entre 60 et 80 personnes peut-être au parc, ce qui est pas mal quand même, mais c'est pas non plus énorme. Et le soir même, moi j'ai fini, je sais pas, c'était 22h, 23h sur place. Non, peut-être, ouais, c'était dans la soirée. Et après, je suis resté au parc. Je suis resté dans mon camion, dans mon van. Dans mon utilitaire, en fait, qui n'était pas aménagé. J'avais mis le matelas dans le coffre avec Alexandre, on a dormi là dans le camp et la plupart des gens étaient déjà partis, en fait. Mais nous, on était encore dans l'ambiance, à l'arrache un peu dans le parc, à dormir là et à se réveiller avec d'autres coureurs, en fait, où là, il y avait juste une quinzaine de personnes le lendemain, où on est encore déconnecté, en fait. Il n'y a pas trop de réseau, donc j'ai réussi tant bien que mal à appeler Lucille sur place, hein, voilà, avec un réseau approximatif. Mais c'est ensuite quand on part du parc, où là moi je pars de mes propres moyens, avec mon camion, avec Alexandre, et là on commence à voir les notifications qui sont sur le téléphone, à voir que tout le monde a suivi, et voilà, retour à la civilisation, quoi. Et après l'arrivée à l'aéroport, à Blagnac aussi, que Lucille a orchestré en faisant venir tous mes copains et ma famille, et c'était juste génial. Donc voilà, là c'est le retour à la réalité, et le partage a commencé, quoi. Et c'est vrai que dans le parc, on était complètement déconnecté de tout ça, quoi.
Ouais, ouais, c'est ça qui est dingue, je trouve, c'est d'être dans cette petite bulle qui est coupée du temps, tu vois, et je trouve ça beau. Et c'est pour ça que je me demandais, souvent, tu vois, on se dit, ok, tu passes la ligne d'arrivée, boum, tu termines dans un hôtel, tout est terminé, et puis machin, mais... Bah ouais, faut quand même rentrer. Le fait que tu sois encore à dormir la dernière nuit dans le camion, dans le parc, ouais, c'est assez drôle, tu vois.
Voilà, c'est ça. C'était un peu à la route ça, aussi, ouais. C'était. Ouais.
Et d'ailleurs, en France, les gens s'inquiétaient pas pour toi, tu vois, parce que du coup, tu captes toujours pas, tu vois. Tu viens d'arriver, tu dors. Donc les gens attendent encore des news de quand est-ce qu'il arrive.
Ouais, ouais.
T'as pas eu justement des retours de gens qui s'impatientaient un peu de.
Si, j'ai fini à 1h30 du matin pour l'heure française, en fait. Donc, Lucille, mes amis, tout ça, ils sont tous restés connectés, en fait. Enfin, voilà, mes plus proches. Donc, forcément, ça fait tard pour ici. Donc, surtout que quand on est en forêt, en fait, ils savaient pas du tout quand c'est que j'allais arriver, quoi. J'aurais pu arriver 3h après. Ça aurait fait 4h30 du matin. Ils en savaient rien, en fait. Donc, c'était long pour eux. Ils savaient pas que j'allais finir à 1h30. Donc, ils ont attendu jusque-là.
Bien sûr.
Clairement, après, quand ils m'ont vu arriver, ils savaient que j'étais arrivé. Ils savaient où j'étais précisément. Ils savaient que j'avais fini dans un état correct. J'étais pas en rampant, entre guillemets, même si j'étais fatigué. Donc ils étaient rassurés. Ils savaient que j'avais vécu le rêve de ma vie, que j'avais fini, que j'étais au camp. Et là, ils ont compris qu'en fait, tout ce qui allait se passer après allait me prendre du temps, qu'il fallait que je récupère. Donc ils m'ont laissé un peu de temps. J'ai appelé Lucille, on s'est appelé 5 minutes. J'ai dit, là, je vais devoir te laisser parce qu'il y a encore d'autres finishers qui vont arriver et puis après, je vais aller dormir. Donc ils l'ont compris, ils m'ont laissé du temps, ils savaient qu'ils étaient rassurés, ils savaient que j'étais au camp. Donc là c'était terminé, la course était terminée, ils savaient que j'étais en mode récupération. Donc après j'ai pris le temps de communiquer le lendemain avec eux, quoi.
Ouais, ok. Ouais, ouais, ça peut... Faut le sas de décompression.
Voilà, quoi. C'est ça.
Ouais, ouais. Tu manges quoi d'ailleurs les jours après? T'as pas l'estomac un peu en vrac?
Je l'avais pas en vrac, par contre je mangeais un peu tout, on a fait un buffet le lendemain midi en fait où j'ai mangé un peu de tout en quantité assez raisonnable, c'est pas revenu de suite en fait.
La faim, ouais.
Ouais, c'est ça, mais après c'est revenu un peu plus, ouais, deux jours après j'avais énormément faim par contre parce que j'avais, je pense que j'ai perdu 6 kilos à peu près, j'ai perdu beaucoup de poids sur la course.
6 kilos?
Ouais, c'est mon estimation, je me suis pas pesé mais je me suis vu et tous les gens l'ont vu aussi après la course, j'étais très très maigre par rapport au début et je suis assez maigre de base en fait, donc je pense que j'ai perdu pas mal, ouais.
Okay.
Donc il fallait que je compense, donc j'ai beaucoup mangé après, je mangeais de tout, je me rappelle on a fait un steakhouse avec Alexandre aux États-Unis, les grillades là-bas sont pas mal donc on s'est fait assez plaisir. On a fait pizza aussi avec John Kelly, John Feghiveresi, les anciens finishers, le lendemain de la course. Hein. Donc on s'est fait plaisir aussi, c'était des bonnes grosses pizzas à l'américaine, c'était sympa. donc voilà, on n'a pas fait dans la demi-mesure, quoi. On s'est fait plaisir et il faut récupérer les kilos qu'on perd. Quoi. Et après quand je suis rentré en France, c'est pareil, ma copine elle m'a acheté des sodas, elle m'en achète jamais, mais elle m'a dit « Allez, cette fois-ci, tu les mérites.
» Il faut du sucre.
Voilà, c'est ça. Donc pour la récup, c'est pas top, mais c'est juste des plaisirs en fait que ben, on compte plus. Quoi.
Ouais. Ouais, non, mais je peux bien le comprendre, ouais. J'avais une dernière question, tu vois, avant de clôturer cette interview, peut-être un petit peu plus deep. Je sais pas vraiment comment la formuler, mais c'est, est-ce que tu vois, après un événement qui t'a possédé, qui t'obsédait, tu vois, pendant 6 ans quasiment, ouais?
Ouais, c'est ça, 6 ans pile poil, pratiquement, ouais.
Est-ce que t'as pas eu des moments où t'as eu peur d'avoir un vide, tu vois, après justement, bah tiens, quand il y a un truc qui prend tellement de place dans ta vie et que du jour au lendemain ça disparaît, tu vois, il y a un gros vide, un peu comme c'est peut-être une métaphore un peu bancale, mais comme une relation amoureuse, tu vois, hyper fusionnelle où t'es amoureux de quelqu'un ou tu partages ta vie, quoi, tu partages plein d'activités, du jour au lendemain, boum, tu peux plus le faire. Je te le dis ça parce que justement, bah, tu vois, juste avant qu'on commence, t'avais vu un peu mon histoire par rapport à la course à pied et moi pendant plusieurs années, j'ai pas pu courir autant que je pouvais. Et j'avais un manque, tu vois, j'avais un truc, mais comment je m'occupe, tu vois. Et est-ce que ça t'a traversé l'esprit que justement t'es cet effet de manque ou cet effet de vide, de tiens, mais en fait j'ai réalisé mon rêve, qu'est-ce que je fais, quoi? Où est-ce que mon attention se tourne, tu vois?
Ouais, c'est sûr, je me suis jamais trop posé la question parce que je voyais pas la finalité et en fait j'étais dans la recherche de trouver mes limites en fait. Et je pensais pas qu'un jour j'allais finir la Barclay, enfin si, j'y croyais. Mais je me suis jamais dit, si tu l'as fini, qu'est-ce qui se passe après? Pour moi, c'était, est-ce que je peux la finir? Et ensuite, je me poserai la question plus tard, quoi. Là, je suis un peu dans la question, mais j'ai toujours la Terminal Room en tête. La Terminal Room, c'est un défi que personne n'a fini et je me demande si c'est faisable ou pas, quoi. Et ça me plaît beaucoup, en fait. Pour moi, la Barclay, là, il y a 2 semaines, c'était pas une finalité, c'était pas une fin en soi. C'était clairement la fin de mon projet de 6 ans, qui était incroyable d'obsession au départ et de passion par la suite, hein, où je me suis découvert la passion pour ce sport-là, en fait. Donc, c'est quelque chose qui me reste naturel, en fait. J'ai la passion du dénivelé, de la montagne. Donc, ça, je vais toujours aimer ça. Au-delà du repoussement de soi, ça m'a fait énormément évoluer déjà sur ces 6 dernières années. Donc, je suis très reconnaissant d'avoir eu la passion pour ce sport parce que je pense que ça m'a fait évoluer. Donc, je ne suis pas forcément en quête de toujours plus. Il y a la Terminorum en juin qui va me faire vibrer aussi, je le sais. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai en tête. Et au-delà de ça, en fait, j'ai aussi le but de fonder une famille, d'élever mes enfants, de transmettre. C'est pas de l'ultra, mais c'est quelque chose qui compte aussi beaucoup pour moi. Et c'est quelque chose de différent. C'est de la transmission. Et voilà, c'est faire une équipe avec ma chérie, avec Lucille, voilà, d'élever nos enfants. Et ça, c'est quelque chose sur laquelle je vais donner de l'importance aussi. Professionnellement aussi, j'espère que je vais évoluer, que ça va bien se passer. Donc, c'est un équilibre, en fait. Un équilibre entre professionnel, entre personnel, faire une famille, entre sport. Je ferai toujours du sport dans ma vie, mais le curseur sera pas forcément mis sur ça dans le futur. Donc là, j'ai réussi ça. C'est génial. Je suis super content. C'était 6 ans de vie. La Terminorum, ça va arriver bientôt. Ça va me faire vibrer. Mais après, la suite, elle sera faite de plusieurs choses qui seront pas forcément liées à l'ultra, quoi.
Ok. Bah, si je reformule avec des mots de préparateur mental, tu vois, ce que t'as dit un peu en filigrane, c'est ton pourquoi, c'était pas la Barclay, en fait. Ton pourquoi, c'était chercher tes limites et te poser la question, mais jusqu'où je peux aller? Donc c'était ça la vraie question, et que ça soit la Barclay ou une autre course, le pourquoi il est là. La deuxième chose que j'entends qui est hyper intéressante et je pense importante, c'est de pas se définir uniquement sur un résultat ou sur une course, et justement d'avoir une identité, d'exister en dehors de Aurélien l'athlète, tu vois, exister Aurélien le futur papa, Aurélien l'ingénieur, tu vois. Et c'est ça qui fait que t'es solide.
Ouais, voilà, c'est pour ça que je suis bien dans ma vie pour l'instant, là, et j'ai l'équilibre que je recherchais depuis longtemps, que j'avais pas aux États-Unis, comme je te disais. Et là, je le sens, là, je suis bien, en fait. J'ai mes projets qui me stimulent, que ce soit professionnellement et aussi personnellement sur l'ultra. Et quand je vais créer ma famille plus tard, ça sera différent. Donc voilà, là, je suis bien dans ma vie et je m'inquiète pas trop. Je suis pas inquiet par rapport au fait d'avoir réussi la semaine dernière, il y a 2 semaines, et d'avoir un vide. Je pense pas ressentir ce vide dans le futur, mais on verra ce qu'il advient, mais là ça m'inquiète pas trop, quoi.
Bon, bah cool. Avant dernière question, après ça serait vraiment l'autre, c'est pareil, c'est une question un peu deep, tu vois. C'est comme t'as commencé l'ultra tard, et que, tu vois, moi, c'est une voie à laquelle j'aspire. Alors, tu vois, j'ai un an de plus que toi, donc j'arrive après, mais tu vois, j'ai vraiment envie de vivre tous ces récits de course. Tu vois, je veux au moins m'y frotter un peu, que ça soit sur des courses ou comme toi, tu vois, sur des défis perso que je me lancerai. La question que je me pose, c'est qu'est-ce que ça a changé dans ta personnalité? Et quand je pose ça à des athlètes, tu vois, qui ont des parcours très classiques, où tu vois, dès 5 ans, ils faisaient du judo, du handball, et puis ils font ça toute leur vie, ils se rendent pas compte à quel point la discipline les a transformés, tu vois. Toi, est-ce que tu saurais te dire ce que ça a changé entre le Aurélien d'avant et le Aurélien maintenant?
Ouais, ça a changé beaucoup de choses. Après, c'est difficile de faire une introspection. Je pense que le regard des autres aussi est très important. Je pense que d'un point de vue extérieur, sur le comportement qu'on a avec les autres, pourrait donner plus de précision à ce sujet-là. Moi, je pense que ça m'a fait gagner en sagesse, en patience. Même si je suis quelqu'un de très impatient au quotidien, j'arrive à prendre du recul sur beaucoup plus de choses maintenant. Je suis assez sanguin de nature, assez impulsif sur certains sujets en fait. Voilà, l'impatience quand il y a des choses qui fonctionnent pas, je suis assez perfectionniste et je m'agace rapidement en fait. Je pense que ça m'a fait évoluer à ce niveau-là où je prends vraiment le temps d'accepter les choses comme elles sont. Voilà, prendre du recul sur tout ça. J'étais très compétitif à l'époque. Je voulais être le meilleur pour me prouver et avoir confiance en moi et en mes capacités. Je le suis beaucoup moins, je pense, avec le recul, même si c'est pas à moi de le dire. Je suis vraiment à la recherche de moi, en fait, plutôt que moi autour des autres. C'est pour ça que, à la course à la Barclay, je me suis vraiment recentré sur moi. Et c'est pour ça qu'avec Guillaume, on était autour de la 15e place, je pense, au début. Et ça m'a pas du tout contrarié, parce que je faisais pas la course contre les autres, en fait. Et voilà, l'ultra, ça fait se recentrer sur soi-même, sur ses faiblesses, pour pouvoir s'améliorer soi-même, pas en relatif aux autres. Donc je suis devenu moins compétitif, donc je me compare moins aux gens, je suis plus serein avec moi-même, je suis bien dans ma vie en fait, je sais mes faiblesses et je vis très bien avec, je suis quelqu'un de très maladroit, j'en fais une tous les jours à chaque fois, donc voilà, très impatient, assez impulsif, mais tout ça j'ai appris avec le temps, j'ai gagné un peu plus en sagesse je pense, mais voilà, après ça serait à mes proches de dire comment j'ai évolué, mais moi je dirais surtout sur ces aspects-là quoi.
Bon bah écoute, merci de ce partage, c'est une belle quête de soi en tout cas, je trouve c'est hyper inspirant et merci pour ces mots. La toute dernière question que je pose, alors je pense connaître la personne que tu vas me recommander, mais j'aime bien dire que c'est un passage de micro olympique au lieu d'un passage de flambeau, c'est de savoir à qui, quel athlète ou quelle sportive tu me recommanderais d'aller interviewer justement pour parler un peu de tous les sujets qu'on a abordés aujourd'hui. Ça peut être dans le trail, ça peut être dans d'autres sports. Tu vois, tu as déjà cité beaucoup de gens, donc j'ai déjà du boulot et j'ai déjà allé me nourrir. Mais est-ce que tu as envie de passer le micro à quelqu'un en particulier?
Y a tellement de gens, c'est compliqué. Je pense que la personne qui m'a aidé sur ces derniers mois, qui était Dimitri, qui lui coach Dimitri Grudet, qui coach Benyat Marmisol, Jocelyne Poli et qui coach pas mal d'athlètes qui font différentes choses en fait. Il a eu énormément de connaissances et un très bon recul sur certaines choses que je faisais, certains points précis sur la gestion du sommeil, sur la gestion de certaines séances spécifiques. Donc il est très intéressant à écouter, il a énormément de retours d'expérience, donc il est top. Donc lui, je pense que tu aurais une discussion très intéressante avec lui à ces sujets-là. Et après, il y a tellement d'autres athlètes que c'est compliqué de faire le tri. Mais là, c'est la première personne qui me vient parce que du coup, on communique ensemble et parce qu'il est source aussi d'informations très intéressantes. Donc voilà.
Ok, mais je serais curieux d'avoir son avis de coach, on peut le considérer comme ça?
Ouais, c'est ça, il est coach, il se lance dans son activité là, donc exactement. Ouais.
Ok, puis il faut que j'aille voir Guillaume aussi quand même pour...
Guillaume, moi, ça a toujours été une inspiration pour moi. Donc, il a déjà eu l'occasion de partager son histoire, etc. Donc, il le sait, de toute façon. Hein, j'y dis tout le temps, à travers tous les médias, c'est devenu un pote avec le temps. Mais moi, c'est mon idole, c'est une machine. Donc, clairement, il pourra te raconter aussi des histoires très intéressantes par rapport à son vécu, ça, c'est sûr.
Ok. Bon, bah, cool. Rendez-vous pris. Il est sur Toulouse aussi?
Il est à Bordeaux, Guillaume.
Bordeaux, ok. Vas-y, mais je pourrais le passer le voir aussi facilement. Merci infiniment, Aurélien, pour ce moment. C'était hyper touchant de partager. J'ai essayé, tu vois, de renouveler un peu les questions. Forcément, j'avais aussi envie que tu me racontes un peu la course. Et je t'ai fait répéter, mais merci pour tout, pour ce moment de partage. Et tu m'as fait un peu voyager, là. Donc,
génial.
J'ai un peu d'émotion, moi aussi. Donc, c'était super. Merci infiniment et félicitations encore pour cette quête de soi et cette belle course aussi.
Bah, génial, merci à toi. C'est vraiment cool que tu aies fait les déplacements pour qu'on discute de ça. On a vraiment eu une discussion intéressante. On a discuté de sujets dont j'ai pas trop discuté jusqu'à présent, un peu plus en profondeur sur certains aspects. Donc c'était chouette. Tes podcasts, ils sont super inspirants. Donc en faire partie, c'est vraiment génial. Donc merci de me donner l'opportunité de partager ça avec toi. C'est top.
Bah écoute, plaisir partagé. Bah écoute, je te dis à très bientôt parce que comme on dit chez moi, il y a que les montagnes qui ne se recroisent pas.
C'est vrai. En effet, ouais.
Ça va t'inspirer en tant que trailer. Allez, salut Aurélien.
Salut.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao.